Africa.
Tout feu tout foot, l'émission 100% foot présentée par Lamine Badiane sur Africa Radio.
Et vous savez quoi, je suis très très heureux de vous retrouver mes amis et vous aussi chers auditeurs sur Africa Radio. Sans plus tarder le sommaire, nous consacrerons une large page au tir en ressort de la CAN 2019 en Égypte. Nous parlerons de la Ligue des champions africaines, le tournoi des centres de formation, des tournois des légendes et enfin la CAN U17. Tout un programme qu'on va vous décortiquer, bien sûr, avec l'équipe de Tout Foot Tout Foot. Pas encore au complet, puisque nous attendons toujours Christian Chango qui va nous arriver, bien sûr. C'est clair et net, c'est l'ordinateur. Doyen Willy, bonsoir.
Oui, bonsoir mon frère, bonsoir le doyen. Et toi le doyen après tout, le gorgui
non, mais au Sénégal. Ça c'est je ne vais pas reprendre ça, c'est pas possible ça.
Ok, bonsoir Hakim, bonsoir belle Hélène, bonsoir tout le monde.
Hakim, salut.
Bonsoir Lamine Badiane, heureux de te retrouver parmi nous. Bonsoir à tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous écoutent à travers le continent, à Abidjan et notamment à travers toute la France.
C'est bon.
Salut à tout le monde, je suis très heureux de te retrouver coach Lamine.
Moi aussi figurez-vous. Bon allez, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer donc rapidement et surtout attendre Christian Chango. Et une réalisation bien sûr d'Hélène Bizio.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Tout fait, tout foot, tout fait, tout foot, tout fait, tout foot.
Messieurs, nous ne pouvions pas commencer cette émission sans parler, bien sûr, ou passer sans parler sous silence ce qui s'est passé à Amiens lors du match entre Amiens et Dijon. Rappel des faits, 78e minute, des cris de singe depuis les tribunes à l'endroit du capitaine Damien Guano. Des cris racistes, match arrêté. Messieurs, la France est-elle contaminée, doyen Uli?
Oui, la France n'est pas contaminée, c'est-à-dire que c'est le produit d'une culture, c'est le produit d'une civilisation. Donc il faut le reconnaître, c'est parce que c'est quand les gens qui ont fabriqué cette culture-là ne disent pas à leurs enfants que c'est une fausse culture, que dans la vie, il n'y a pas un être humain qui est mieux que l'autre, ça ne changera jamais. Pas loin d'ici, on a vu des zoos humains en France. Donc, je ne sais pas pourquoi ça choque les gens en 2019 que des gens fassent des crises de singes quand ils voient des noirs. Donc, c'est à la France qui avait fabriqué cet esprit de dire, d'éduquer ses enfants de ne plus le faire. Mais c'est tout. Donc, ce n'est pas un phénomène de football. Moi, ça me gêne énormément quand on dit le racisme dans le football. Non. Le racisme est dans la société française, ou dans la société italienne, ou la société. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ce n'est pas quelque chose d'isolé. Il ne faut pas isoler la situation.
Ouais, bah moi, je trouve ça vraiment déplorable. C'est inadmissible. Encore une
ouais,
fois.
Mais on dit toujours que c'est inadmissible, mais
oui,
pourtant,
ça continue
toujours.
Ouais, ça continue.
C'est ça aussi le souci. Hein.
Moi, c'est mon propre opinion. Tu me demandes, coach Lamine, moi, je te le dis. C'est vraiment étrange, ces cris. Moi, je trouve ça tout simplement nul. Et celui justement qui a poussé ses cris, donc a été attrapé d'ailleurs par la police. Et je le rappelle, parce qu'on n'avait pas eu toutes les informations tout à l'heure, mais il y a une plainte qui a été déposée contre cette personne. Et il a fait effectivement une garde à vue. Il est ressorti de cette garde à vue, ce supporter. Mais je pense que faut aller au-delà de ça. Faut effectuer des campagnes de sensibilisation.
Est-ce que faut
arrêter de.
Est-ce que c'est cette sanction-là qu'on attend, doyen Uli?
Non, mais le racisme c'est un crime, c'est un délit en France. Donc, c'est pas des sanctions et minimes. Donc, il faut sévir par rapport à ce fléau. C'est un fléau. Parce que les gens qui subissent le racisme, mais ça le touche dans leur être même. Parce que personne n'a fait une demande au bon Dieu, au bien créateur de venir au monde noir.
Là où je trouve la réaction moi de certains supporters et de beaucoup de supporters dijonnais intelligente, Lamine, c'est qu'il y a beaucoup de supporters justement qui ont été vers cette personne-là qui a fait ces cris méchants, ces cris bêtes. Et il a été attrapé, il a été pris à partie par des supporters qui l'ont emmené directement aux policiers. Et là où je trouve l'intelligence de ces supporters, c'est que on se dit bien sûr il y en a un parmi une centaine, des milliers de supporters qui fait ce cri-là, mais voilà, presque une poignée de 50 personnes ont réagi efficacement en allant vers ce personnage, vers cet énergumène pour l'attraper et le ramener à la police. Oui, et là, bah, la réaction collective, elle est intéressante.
Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de la réaction du capitaine Damien, justement ?
Oui, mais sa réaction de réagir dans le match, de pointer et de signaler la situation, c'est une bonne réaction. Mais ce qui m'a choqué dans sa réaction, c'est que vers la fin, il essaie de
justifier un peu, quoi.
Non,
pardonner.
De pardonner, voilà, non. Un criminel doit être puni. Il n'y a pas de pardon pour un criminel.
Il aurait dû aller jusqu'au bout, c'est-à-dire
sortir. Aller jusqu'au bout, porter plainte et de donner l'exemple.
Sortir du terrain aussi.
Donner exemple à
il
tous les noirs.
Il fallait marquer le coup.
Marquer le coup et de porter plainte.
Ouais.
C'est un crime en
ouais.
France. Donc on ne pardonne jamais un crime.
Il y a une plainte qui a été déposée.
Mais ça, c'est le club.
Donc il ne faut pas minimiser la chose. Il ne faut pas banaliser cette situation. C'est grave parce que des gens, des centaines, des millions de gens ont péri par rapport à ce phénomène de racisme.
Alors, 01-55-07-58-00, 00-33-1-55-07-58-00, vous nous écoutez à Paris sur le 107.5, Melun 92.3, Mantes-la-Jolie 87.6, en DAB+, Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Rouen, Le Havre, et puis sans oublier, bien sûr, Abidjan en 91.1. Messieurs, nous allons passer à une autre actualité,
ouais.
C'est la Ligue des champions africaines avec les résultats, mon cher. C'est parti.
Oui, on a pas mal de résultats, coach Lamine. Alors, il y a eu des matchs avec, bien sûr, le fameux Mazembe. D'ailleurs, on entendra Marco Momo dans quelques instants qui va justement s'exprimer à ce sujet. Mais d'abord, on peut peut-être parler, coach Lamine, de la Coupe de la Confédération. Il y a eu des rencontres. C'est le club Sfaxien et le Zamalek qui sont, bien sûr, en demi-finale. On va rappeler tout simplement les matchs. Donc, le club Sfaxien qui a été renversant, battu 2-1 par le Kana FC au match aller en Zambie. Le club de Sfax en Tunisie, coach Lamine, a réussi à renverser la situation à domicile 2-0. Notamment grâce à un but de Firas Chawat, c'était à la 7e minute. Club Sfaxien a tremblé comme la barre transversale hein, avant que Kala Marzouki ne double la mise en fin de match à la 90e minute. Superbe match du club Sfaxien. 2-1. On va rappeler peut-être les autres résultats. Coach Lamine, donc le club Sfaxien qui s'impose face au Kana FC. Et dans l'autre rencontre, coach Lamine, eh bien c'est le Zamalek qui, après un match nul 0-0 à Agadir, a décroché une qualification dans le dernier carré grâce au seul et unique but de cette double confrontation. Un but qui a été inscrit par Ibrahim Hassan au retour des vestiaires, exactement à la 49e minute. Et les Égyptiens ont ensuite souffert et ont même été sauvés par leur barre transversale. Zamalek qui devra patienter avant de connaître son adversaire puisque le quart de finale retour entre El Hilal du Soudan et l'Étoile Sportive du Sahel, comme vous le savez par rapport à la situation politique qui se passe en ce moment
du Soudan,
a été reporté au 22 avril pour cause de crise politique au Soudan.
Mais est-ce que réellement le 22 avril, Doyen Uli, le problème du Soudan sera réglé ? C'est pas trop sûr.
Moi, je pense qu'il
faudrait à une date
ultérieure.
Ou bien
sur
un terrain neutre.
Ouais.
Mais même si vraiment du côté de l'équipe
d'Al-Hilal,
il y aura peut-être sera défavorisé par rapport au manque de supporters.
Oui, parce que c'est ce qui est gênant, c'est que c'est un habitué de la compétition. Donc c'est triste qu'ils soient éliminés parce qu'ils sont toujours là. À chaque année, on les voit.
Ok. Nous allons aller du côté du Standard. Regardez un peu, parce que nous avons Simon. Simon qui nous a appelé. Alors, bonsoir, Simon.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Donc, je voulais rebondir sur le racisme. Et je voulais souligner quelque chose de très, très important. Ce qu'il avait dit, coach, tout à l'heure, concernant l'éducation des enfants des Blancs, en fait. C'est vraiment, je l'insiste là-dessus, parce que sans l'éducation des enfants, vraiment, ce qu'il a dit, c'est très, très important. C'est ça qui m'a poussé à vous appeler pour vraiment... que c'est l'Europe de faire ce travail.
Ouais.
Parce qu'ils nous ont... Ils nous ont abaissé pendant des décennies.
Ouais.
Et aujourd'hui, bon, ça continue parce que pourquoi ça continue aussi parce que la faute elle vient de nous-mêmes aussi parce que nos gouvernants ils ne gouvernent pas bien nos pays, donc on n'a pas de dignité, donc on est obligé de refuser chez eux. Je pense que le problème est vraiment est complexe. Donc, l'éducation, elle est très importante.
Ok.
Elle est très importante. Donc, il va falloir vraiment faire un travail de fond pour pouvoir mettre terme à ça. Et j'invite aussi les gouvernants d'arrêter de faire n'importe quoi chez nous.
Ok, c'est bon.
Qui donne l'enseigne aux blancs de dire que voilà comment ils se comportent chez eux, etc. Et ça,
merci Simon. Merci beaucoup. Voilà. Djabi, on vous écoute. Voilà. Merci Simon. Allô Djabi.
Bonsoir.
Bonsoir Djabi.
Bonsoir, bonsoir Djabi.
Bonsoir tout le monde. Hakim, doyen coach.
Salut Djabi.
Salut Djabi.
Ouais, en fait, moi je voulais parler de racisme. En fait, comme doyen il a tout dit quoi. C'est la société qui est raciste, c'est pas les foot. Hein.
Non.
Quand vous regardez bien la ministre d'origine sénégalaise, là, que le nommé ministre, quand vous voyez que tous les insultes qu'il a subies sur les réseaux sociaux, quand vous voyez que Madame Taubira elle était ministre, tous les insultes qu'il a eues, ils l'ont comparé à un singe.
Ouais.
Tous les hypocrites qui viennent parler là, à la télé, ils disent ouais, les foot, c'est ça.
Non.
Ils sont tous racistes. C'est pas des téléfoot, hein.
Non.
C'est la société qui est raciste, qui est comme ça.
C'est vrai,
c'est donc, clair.
Moi, ce qui m'étonne, Dijo, l'entraîneur de Dijo, c'est un noir. Le capitaine Tavares, c'est un noir.
Ouais.
Je sais pas pourquoi, si il faut un critère sur l'autre joueur, et les joueurs qui jouent sur leur couleur, c'est quoi, c'est un noir aussi. C'est pas ces gens-là, pourquoi ils ont pas défendu, comparé tout ça, pourquoi ils sont tous pas sortis dans le terrain, dire nous aussi, on est concernés par ça. Parce qu'à chaque fois, la personne qui subit ça en Italie, quand tu entends Brunetti qui dit, les mecs, il n'aurait pas dû fêter son but comme ça.
Bon, on a bien compris. Ouais. En tout cas, bon, on a bien compris, c'est votre point de vue. Hein. De toutes les façons, on pose le problème. Maintenant, quelles sont les sanctions qui vont suivre? Ça, on va le voir. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées.
Ouais.
Le capitaine Damien a décidé de lui de ne pas déposer plainte, de ne pas porter plainte. Il y en a qui considèrent que c'est une bonne chose, il y en a qui considèrent que ce n'est pas une bonne chose.
Ouais.
Le débat est ouvert. En tout cas, merci Djabi d'être venu sur la radio
Djabi.
Africaine.
Merci Djabi.
On va prendre un dernier auditeur avant d'aller vers la Ligue des champions africaines. Membres, bonsoir.
Oui, bonsoir papa.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde dans le studio.
Bonsoir
merci,
madame.
Bonsoir.
Ce que je veux vous signaler, le racisme n'est pas seulement chez les Blancs, même chez nous les Noirs.
C'est vrai.
C'est vrai.
Parce que quand les Noirs jouent au football... Ça devient un crime. C'est le crime mondial. On ne veut pas voir un noir évoluer. C'est ça le problème. Le racisme, même dans notre ventre. Quand tu arrives au marché, les Arabes, les Maghrébins nous insultent. Ils nous appellent les singes. Même les Maghrébins qui sont en France sont contre les Noirs. Ils insultent les Noirs pendant. Partout, on nous insulte. On nous appelle les singes en arabe.
Bon,
ce n'est pas seulement les Blancs. Ils vont combattre ça même chez les Noirs.
D'accord. Ouais.
Et puis dans le football, c'est les Noirs qui évoluent. Les Noirs évoluent, personne ne va arrêter le peuple noir. Ils
d'accord.
vont évoluer partout, même dans les bureaux, même en études, même en foot, même en boxe, même en tout.
On a bien compris.
Okay,
merci. Merci, voilà. Merci.
Merci beaucoup.
Alors,
merci.
Oh, merci beaucoup d'être venu sur la radio africaine. Africa.
Radio.
Africa Radio, bien sûr. Ouais. On va passer donc sur la Ligue des champions, Hakim, Doyen Willy.
Ouais.
Et surtout parler de cette Ligue des champions. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la Coupe de la CAF.
La Coupe de la Confédération africaine, ouais, la deuxième plus prestigieuse des coupes
exactement.
De clubs sur le continent. Et là, ça sera Ligue des champions.
Ligue des champions, Ligue des champions africaines maintenant, avec les qualifications pour les demi-finales. Alors, les résultats.
Exactement, les résultats. Alors, c'est Espérance Sportive Tunis qui s'est imposé face au club constantinois, coach Lamine. 3-1. C'était à domicile du côté de Tunis. Et l'Espérance Tunis donc a mis fin effectivement aux espoirs du club algérien qui a fait quand même un beau parcours. Faut quand même le rappeler, Willy Dorkenou le rappelait lors de la dernière émission. Constantine qui arrive quand même toutefois en quart de finale. Ça faisait très longtemps forcément qu'on n'avait pas vu un club de cette région-là donc arriver en quart de finale. Donc c'est une belle performance pour les Algériens, mais qui quittent la compétition face à une grande nation du football, l'Espérance Sportive de Tunis, un grand club de football pardon. Et du côté de l'Égypte, c'est Al Ahly qui a renversé la tendance, coach Lamine. Ils ont remporté leur match à domicile 1-0 face au Mamelodi Sundowns.
Alors, le match aller a tout réglé finalement.
Le match aller a tout réglé parce que c'était
5-0.
Ouais, c'est énorme sur le continent parce que battre Al Ahly, quand on sait ce que c'est que Al Ahly sur ce continent ou bien dans le monde même, donc c'est une prouesse énorme de la part des Brésiliens de
l'Afrique du Sud. Faut quand même le dire, coach Lamine. Comme le dit Willy, il y a Il y a effectivement un gros match qui a été fait à l'aller pour les Brésiliens d'Afrique du Sud, les Mamelodi Sundowns. C'est pas forcément, bien sûr, la première fois qu'on les voit à ce stade de la compétition, mais il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Et Al Ahly a été, certes, vainqueur de cette dernière rencontre, mais c'est le Mamelodi Sundowns qui a tenu son match lors de la manche aller. Et ça, ils l'ont fait de quelle manière? Bon,
de toutes les façons, moi qui suis allé en Égypte, j'ai vu qu'il y avait quelques petits soucis au sein de ce grand club, que ce soit au niveau basket, que ce soit au niveau football. Il y a quand même de gros soucis parce que Al Ahly est en train de perdre beaucoup de choses. Il y a des joueurs qui n'ont pas été remplacés. Il y a... Enfin, la nouvelle politique d'Al Ahly est quand même, on se pose beaucoup de questions du côté du Caire. C'est ça qui pose.
Oui, mais coach, c'est tout le football égyptien qui
danse sur un pied.
Ouais, qui a du plomb dans l'aile. Et donc, c'est pas. Et ça arrive, hein, ça arrive. On a vu ça du côté du football du Maroc. On a vu qu'à chaque fois, il y a des hauts et des bas. Donc, c'est la fin d'un cycle où ça va reprendre parce que c'est un grand pays de football. Peut-être qu'après la CAN, ils vont se retrouver.
En tout cas, il y a un match qui a retenu notre attention, bien sûr, c'est le retour du tout-puissant Mazembe.
Ouais.
Alors ça, c'est tout autre chose, Hakim.
Oui, c'est tout autre chose et on le rappelle, hein, le tout-puissant Mazembe.
Ah ouais.
Coach Lamine, on le dit, hein, de Pamphile Miao n'était pas forcément aussi attendu à ce stade de la compétition parce qu'il y a eu beaucoup de surprises, il y a eu beaucoup d'animosité, il y a eu beaucoup de rencontres un petit peu bâclées, Willy Dorkenou ne me contredira pas puisqu'on a vu ces matchs et on les a suivis avec toi aussi depuis le continent africain, d'une manière vraiment minutieuse. Et c'est vrai que lors de la présentation et lors de l'analyse de Marco Momo Emery, journaliste et correspondant pour nous depuis la République démocratique du Congo, il avait dit il y a quelques faiblesses du côté du tout-puissant Mazembe, mais le tout-puissant Mazembe sont toujours là, au bon moment, et toujours aussi présents.
Oui, surtout quand il y a un garçon qui s'appelle
Trésor Mputumabi.
Le pied de Jésus.
Le pied de Jésus. Marco, bonsoir.
Bonsoir coach et bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir Marco. Kitoko.
Alors dites-nous tout, alors le retour du tout-puissant Mazembe, ça c'est une bonne chose et une bonne nouvelle.
Oui justement c'est une très bonne nouvelle pour le football congolais et justement pour le tout-puissant Mazembe Anglebert, le tout-puissant qui a retrouvé Trésor Mputu qui a réalisé un grand match. On l'attendait à ce niveau de la compétition lors de la manche aller de ses quarts de finale et on l'a retrouvé à Kamalondo. Trésor Mputu a compris réellement qu'il fallait faire jouer l'équipe et qu'il y avait cette pression, mais surtout c'est le caractère de tout un collectif, hein, le tout-puissant Mazembe qui a été mené. Et l'entame de la rencontre, Mazembe est revenu au score jusqu'à marquer 4 buts. Mais si il fallait les faire, il fallait être le tout-puissant Mazembe Anglebert et surtout à profiter de l'état de grâce de ces jeunes talents qui est issu d'un des centres de formation du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il y a 2 ans, Jackson Muleka évoluait encore à l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Il avait fini meilleur buteur avec Ecofoot Katumbi, l'une des écoles de foot de la famille tout-puissant Mazembe Anglebert. Et quand il a été pris dans l'équipe aux côtés de Trésor Mputu, il est en train de briller de 1000 éclats. Ce garçon a marqué un but subliminal qui a permis au tout-puissant Mazembe de sceller encore cette belle victoire et de se qualifier pour les demi-finales. Je pense que c'est la victoire au départ d'un collectif puisque les buts, nous avons vu que Kabaso Thiong'o a marqué pour égaliser, mais Cheick Elia est venu par après, ainsi que Trésor Mputu et Jackson Muleka. Le tout-puissant Mazembe s'est offert une victoire d'une manière collective. Et ce qui est très important peut-être pour la suite de la compétition, puisque l'espérance des Tunis est quand même là. Mais monsieur, cette victoire ne doit pas nous aveugler, puisque derrière, quand on regarde le premier but encaissé par le TP Mazembe, c'est une passe en profondeur, une défense qui a été pratiquement dépassée. Et puis l'attaquant de Simba Sport Club a profité de cette occasion pour ouvrir la marque et avoir de l'espérance des Tunis. Et je pense que Mazembe, s'il faudrait commettre ce genre d'erreur, Mazembe risque de récolter même 4 buts face à l'espérance.
Ben oui, ce qui est sûr, c'est que ça va être complètement difficile. Ce sera un autre match, même s'il faut reconnaître que le Simba de Tanzanie est une équipe quand même...
Superbe parcours.
C'est pour ça, on va y arriver tout à l'heure, on va parler peut-être du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors je vois des Sénégalais qui sont complètement en train de jubiler en se disant « Oh, la Tanzanie, le Kenya, c'est pas ça qui nous fait peur ». Mais Doyen Willy, attention au football tanzanien de par l'équipe de Simba de la Tanzanie.
Oui, attention, parce que la plupart des gens ne connaissent pas le football africain. Donc quand ils connaissent que des pays dont les joueurs évoluent en Europe. Ouais. Mais il faut vraiment connaître le football africain pour savoir que le Soudan, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda sont des grands pays de football.
On y reviendra tout à l'heure. Restons un peu avec Marco Momo, surtout quand il parle de justement de l'équipe de Tout-Puissant Mazembe qui va jouer contre l'Espérance de Tunis.
C'est ça, Lamine, c'est, je voulais juste rajouter, lui poser justement cette question. On a vu Mazembe, Marco Momo Emery, remporter l'édition de 2015. On a vu ensuite le Mamelodi Sundowns remporter l'édition de 2016. Le Wydad Casablanca remporter l'édition de 2017. Espérance Tunis qui remporte l'édition de 2018. Quatre équipes différentes, mais quatre équipes qui se retrouvent effectivement
champion,
dans ce carré. C'est vraiment formidable. Et quel est le niveau, quel est le niveau, enfin, on a atteint un niveau vraiment extraordinaire.
Oui, mais c'est dû au fait que dans un club, il y a un ADN de la victoire. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui ont déjà gagné. Moi, quand j'étais tout petit, je connaissais déjà le TP Mazembe. Donc, tout jeune joueur qui rentre dans le TP Mazembe à cet esprit de victoire sur le plan continental. Donc quand on prend le TP Mazembe, quand on prend l'Espérance de Tunis, c'est des clubs qui ont eu des victoires sur le continent. Donc n'importe quel jeune qui est recruté dans le club a le même esprit de victoire.
Ouais. C'est-à-dire qu'on le met depuis le petit, on leur apprend à avoir la mentalité
la
du
culture,
club.
La culture du club. Mais Marco Momo, ma question c'est ça, c'est comment a réagi Pamphile Miao à l'issue de cette qualification? C'est une qualification importante, il n'était pas là en 2015, en tout cas il n'était pas avec l'entraîneur principal. Quelle a été sa réaction?
Oui, justement, hein, il est là. C'est vrai que Pamphile Miao, dès son arrivée, n'a jamais eu la confiance de tout un public. Il a remporté la Coupe de la Confédération, mais on l'attend à ce niveau de la compétition. Il ne peut que se délecter de cette belle qualification du Tout-Puissant Mazembe Angleterre. Après, des disettes au terme de la manche, hein, aller de ses quarts de finale face à la formation de Simba Sport Club. Mais il faudrait que Pamphile Miao puisse confirmer maintenant à l'étape des demi-finales, puisqu'on l'attend, justement au plus haut niveau de la compétition. C'est remporté au moins avec le Tout-Puissant Mazembe Angleterre, la Ligue des Champions. Mazembe a tous les moyens possibles, on le sait, avec des joueurs aussi talentueux tels que les Glody Likonza, les Trezor Mputu, les Jackson Muleka, Meshack Elia, les Abdoulaye Sissoko. Ils sont nombreux dans cet effectif du Tout-Puissant Mazembe Angleterre. Mais il faudrait que Pamphile Miao puisse au moins permettre à ces jeunes aussi de remporter au moins une Ligue des Champions. La Coupe de la Confédération, ça a été fait. Mais la Ligue des Champions, Mazembe court, hein, comme vous l'avez dit. C'est depuis 2015 que Mazembe n'a plus remporté une Ligue des Champions africaine de football. Mazembe a tous les moyens possibles pour arriver en finale. Et je crois, en passant, le président de la République a envoyé les Tout-Puissants Mazembe Angleterre en finale, puisqu'il a dit le rendez-vous est pris pour la finale au terme de la qualification de Tout-Puissant Mazembe. Le même samedi, le président était à Lubumbashi, où il a suivi ce match, mais pas dans le stade, mais il a suivi quand même ce match à partir de Lubumbashi, à cette belle victoire du Tout-Puissant Mazembe Angleterre. Les joueurs sont là. Quand vous regardez Mika Miché qui a réalisé un très grand match, c'est vrai, c'est les héros dans l'ombre dans cet effectif du Tout-Puissant Mazembe Angleterre. On parle trop peu de ce garçon qui est également passé par les centre de formation de Mazembe. On parle trop peu de ces garçons, mais c'est important de souligner ces prestations abouties. On l'a vu lors du match aller, on l'a vu également lors du match retour. Il est utilisé par Pamphile Miao au niveau de la ligne médiane en tant que milieu récupérateur, milieu relayeur ou encore milieu offensif, selon les besoins du Tout-Puissant Mazembe Angleterre. Il faudrait le souligner, Mazembe a les moyens pour arriver en finale, mais il faudrait aussi compter ou s'en passer de cet ogre de l'Espérance sportive de Tunis. Alors, qui a cette fureur, monsieur, qui a cette fureur de défendre son titre. Et puis l'Espérance a envoyé des signaux très forts. L'Espérance a battu Constantine à domicile, où le Tout-Puissant Mazembe Angleterre cette saison a échoué lamentablement avec cette défaite de 3-0. L'Espérance est allée s'imposer par 3-2, puis s'imposer également au retour. La tâche ne sera pas facile pour les corbeaux de Lubumbashi.
Alors, on va demander justement à Salim qui est avec nous, Salim, notre correspondant de Tunisie. Alors, Salim, bonsoir. Est-ce que l'Espérance de Tunis pourra éliminer les corbeaux de Lubumbashi?
Bonsoir, coach Lamine. Salut à tout le monde
sur
le plateau.
Salut.
À tous les auditeurs. Alors, pour répondre à ta question, coach, concernant cette demi-finale, c'est du 50-50. Dans le sens où le TP Mazembe a beaucoup de certitudes. Parce que le TP Mazembe sait comment l'Espérance de Tunis va jouer. Le TP Mazembe sait que l'Espérance va tout donner à Rades au match aller. Ils vont jouer un football très offensif. Il y aura des espaces. Et Meschak aura un rôle très, très important. Comme le disait notre confrère Marco Momo, Meschak aura un rôle très, très important parce que ça va être un peu le Chancel Bamba, comme ce que fait Chancel Bamba en équipe nationale au niveau de la RDC. Lui, c'est un peu le même rôle, mais au TP Mazembe, il va être très important parce que c'est lui qui devra casser les lignes. C'est lui qui devra embêter le milieu, gêner le milieu de l'Espérance sportive de Tunis, parce que la bataille se fera au milieu à Rades. La défense de l'Espérance Tunis a beaucoup d'incertitudes. Ils encaissent beaucoup de buts. Vous voyez, 3-2 contre Constantine là-bas, et match retour 3-1. Ils encaissent toujours des buts. Pratiquement toujours des buts. Donc,
Mazembe
devra marquer la Rades. Oui, coach.
Salim, il faut quand même reconnaître qu'il y a une certaine expérience du côté de l'Espérance de Tunis. Alors que nous accueillons, bien sûr, notre ordinateur préféré. Christian Chango, bonsoir.
Bonsoir à toute l'équipe. Bis à Hélène.
Bonsoir.
Et, je bois vos paroles et encore une fois, on est en demi-finale, donc c'est une bonne chose.
Ouais, ça y est. Il attendait qu'on parle du tout-puissant Mazembe pour rentrer dans le
studio.
Aïe, Christian Chango. Oui, alors, ouais, Salim.
Christian vient de Lille. Hein. on comprend pourquoi il est dans cet état-là.
Concernant l'approche du match du côté de l'Espérance sportive de Tunis, comme je vous disais, ils vont tout donner à l'aller. Et le TP Mazembe a vraiment une carte à jouer à l'aller, parce que TP Mazembe se déplace pas très bien ces dernières années en Afrique, il faut le dire. Partout sur le continent africain, ils se déplacent pas très bien. Mais à domicile, ils sont intraitables. Et les Corbeaux savent qu'ils vont avoir, au retour, un bloc très très bas de l'Espérance sportive de Tunis. Ils vont jouer à 5 derrière. J'en ai la certitude. Moïne Charben, ils vont mettre 3 dans l'axe et 2 latéraux qui vont beaucoup travailler. Il va se sécuriser avec un milieu, même peut-être à 2 voire 3 joueurs à vocation défensive. Ils vont jouer la défense là-bas. Mais à Rades, il y aura une carte à jouer pour le TP Mazembe. Il faut savoir que c'est l'objectif du TP Mazembe, parce qu'il y a une grosse pression du public après l'élimination contre le Primeiro de Augusto lors de l'édition précédente. Donc c'est l'objectif du TP Mazembe, c'est la Champions League, ça fait depuis 2015. Là, on a un plateau des demi-finalistes, c'est inédit, avec le vainqueur 2015, TP Mazembe.
2016, Mamelodi Sundowns, 2017.
Wydad et 2018, Espérance. C'est la première fois qu'on a ça en Afrique. Et il faut dire aussi qu'il y a une grosse pression sur Sylvain Gbo. Parce que Sylvain Gbo, je sais pas ce qui se passe, année après année, lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Même s'il fait une toute petite erreur, il peut faire 20 très bons matchs. S'il fait une petite erreur, le public va lui en vouloir.
C'est
difficile à gérer pour le coach.
On va rappeler quand même aussi la belle performance, hein, et la bonne performance du Mazembe qui a inscrit, comme l'a souligné Marco Momo. Il y a eu un gros travail, coach Lamine, au niveau offensif. Il y a eu 18 buts marqués en 5 rencontres. C'est quand même ce qui est quand même impressionnant.
Au moins, c'est bon. Christian.
Oui, coach.
Alors, parlez-nous un peu de cette équipe du tout-puissant Mazembe que vous adorez.
Oui, le TP Mazembe là qui revient sur le devant de la scène, tout a été dit là-dessus. On les avait vus briller en Coupe de la CAF l'an dernier, mais un club comme le TP Mazembe, son objectif, comme tous les grands du continent, c'est la Ligue des Champions, c'est la vitrine principale, et ils sont sur cette saison bien plus performants que l'an dernier. Maintenant, ils tombent sur un ogre aussi en demi-finale, donc tout. Moi, je rejoins Salim, à mon avis, tout va jouer au match aller, puisque sur le match retour du côté de la RD Congo, le stade, ça va être...
Ça va être chaud.
Ça va être chaud, comme sur toutes les, comme sur toutes les affiches là, qu'on a. Les matchs aller-retour, ça va être chaud, mais tout va jouer au match aller, et on va voir surtout ce que va faire l'Espérance à domicile. Honnêtement, d'habitude, je suis toujours prononcé pour un favori ou pas, mais sur cette affiche-là, c'est vraiment 50-50, et le match aller vraiment va donner une indication de ce qui va se donner, comment va se dérouler la suite.
En parlant de football africain, coach Lamine, je fais juste un coucou à beaucoup d'auditeurs là, qui nous écoutent, notamment du côté du Maroc. C'est Adnan Azarine qui nous écoute, et on salue Adnan Azarine et toute sa famille qui nous écoute.
Mais on embrasse toute la famille. Blaise, vous êtes avec nous, Blaise. On vous écoute, Blaise. Allô.
Bonjour. Voilà, en fait, je voulais juste intervenir parce que j'ai écouté les compatriotes.
Oui, mais qu'est-ce que vous avez comme bruit bizarre, là ?
Ah oui.
Éteignez la radio. Voilà. Oui, allez-y. Voilà.
Voilà, au niveau du racisme dans le football et partout d'ailleurs. En fait, moi, je pense que le problème du racisme là, c'est le complexe. C'est-à-dire, beaucoup de gens n'ont pas encore compris que le peuple noir, si je peux appeler ça entre guillemets, parce que moi, dans ma vie, je connais pas que l'Africain, ça veut dire noir. L'Africain, ça veut dire multicolore déjà.
Exactement.
Il n'y a pas un Africain qui est noir. Il y a les Africains qui sont multicolores. Et puis, Européen, moi, je n'ai jamais vu un Européen qui est blanc, si, sauf si je n'étais pas à l'école. Un être humain blanc, comme le montre, je me tue tout de suite et tout. Mmh. Il y a un autre humain qui est de couleur beige, mais il n'est pas blanc. Moi, je n'ai jamais vu, sauf un animal qui a les poils blanches, mais un être humain blanc, je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit, ce problème de racisme, les gens n'ont pas compris. Même ceux-mêmes qui n'arrivent pas à assumer leur propre couleur, qui ne sont pas, ils se sont autoproclamés blanches alors qu'ils ne sont pas de race blanche.
Mmh.
Donc, il faut déjà comprendre ça. Et que l'Africain déjà arrête d'être complexé lui-même. En fait, le problème, c'est que dans la vie, quand tu n'arrives pas à t'assumer toi-même, à voir le dessus sur toi-même, la personne qui est à côté constate que tu es faible et continue à t'humilier. En fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout le reste des peuples ont constaté que partout où l'Africain passe, il est excellent. Et donc, le but, c'est de l'écraser au maximum pour pouvoir lui montrer qu'il est inférieur aux autres et tout. Dès lors où les peuples africains vont comprendre ça, ils vont commencer à prendre le dessus sur eux-mêmes et pouvoir montrer aux autres que nous sommes meilleurs que vous, donc vous devez nous respecter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que comme le peuple africain commence à ouvrir les yeux, partout, quand tu regardes le football, ce n'est que eux. Quand tu regardes partout les domaines, ce n'est que eux. Et c'est le peuple africain qui est riche.
D'accord.
Alors, il est temps que ceux qui ne sont nos responsables comprennent ça et comprennent qu'ils doivent prendre les mesures à faire respecter leur peuple.
D'accord. En tout cas, merci Blaise d'être venu sur la radio africaine. Ça, le mérite d'être très clair. Marco Momo, pour revenir un peu sur le tout-puissant Mazembe. Donc, tout-puissant Mazembe en demi-finale face à l'étoile sportive.
À l'Espérance. Ouais.
L'Espérance, pardon. L'Espérance. Voilà. Ça va être un match où il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de public, on en est sûr.
Oui, justement, ce sera un match où les Anglo-Vertoanais vont essayer d'accompagner le tout-puissant Mazembe Anglebert, surtout au match retour. On sait très bien que les conditions météorologiques ne vont pas jouer en faveur de l'Espérance de Tunis, puisque je pense que le match retour sera à 15h, et à 15h à Lubumbashi, il fera trop chaud, et puis c'est sur les gazons synthétiques.
Mais c'est fait exprès, hein,
avant le match, Mazembe.
Non, ôtez-moi d'un doute.
Justement, Mazembe part avec cet ascendant-là, avec cet avantage-là devant l'Espérance de Tunis. C'est du 50-50 certainement, puisque dans les confrontations, les récentes confrontations, il y a eu deux victoires de l'Espérance, deux victoires du tout-puissant Mazembe, et puis des nuls, et surtout le tout-puissant Mazembe est resté sur une très large victoire hein, face à l'Espérance de Tunis. 5-0, on se rappelle de la finale jouée au stade de la Kenya avant que le tout-puissant Mazembe n'ait son propre stade. C'était le stade de l'État. On se rappelle également de cette défaite du tout-puissant Mazembe, 3-0 au stade olympique de Rades à Tunis. Donc, il y a encore des règlements de compte entre les deux clubs, mais le tout-puissant Mazembe, je pense, avec cet avantage de recevoir à domicile à Kamalondo, part un peu légèrement favori face à l'Espérance de Tunis. Mais c'est pas aussi évident. On a vu les premiers rodo Agosto venir éliminer le tout-puissant Mazembe Anglebert après un match de 0 but partout en Angola, 1 but partout à Kamalondo, et Mazembe avait pris la porte.
Voilà. Ok. Marco Momo, on vous retrouve tout à l'heure dans notre dossier de la CAN. On va continuer. Salim, vous restez avec nous. Et on va continuer sur, bien sûr, le WAC de Casablanca qui jouait contre...
Le Wydad qui jouait contre Oroya.
Voilà, c'est parti.
Alors, on s'y intéresse tout de suite, donc on va parler effectivement de ce match. Wydad Casablanca qui recevait le club Oroya et grosse gifle bien sûr hein, de la part de Wydad Casablanca. L'image du Paris Saint-Germain face à Lille, le Wydad qui a remporté son match 5-0 face à Oroya. Et c'était une rencontre totalement maîtrisée de la part des Marocains et qui ont maîtrisé leur...
Oui, c'est que défensivement, il faut reconnaître aussi que Oroya n'a pas été au point. D'ailleurs, on va faire un petit coucou d'ailleurs à son gardien de but, le Sénégalais, qui Il y a eu une fracture.
Khadim Ndiaye, on pense à lui et ça compromet ses chances de participation à la Coupe d'Afrique.
C'est terminé. Il n'y a pas de compromission.
Ouais. Ouais. Oui, il a été, en tout cas, il faut juste préciser là-dessus pour Khadim Ndiaye, hein, qu'il a été pris en charge tout de suite, qu'il a été soigné du côté du Maroc. Beau geste de la part de la fédération marocaine qui a pris en charge l'intégralité du traitement et de l'opération des soins pour Khadim Ndiaye. Malheureusement, ses chances sont compromises pour la participation à la prochaine CAN.
On pense à lui, hein. On pense à Khadim Ndiaye parce que c'est vrai que c'est une grosse blessure.
Oui, grosse blessure et sur cette rencontre, bon, autant au match aller, il y a eu 0-0, c'était équilibré, mais sur le match retour, clairement. Oroya s'est fait manger, clairement. Le WAC a montré sa supériorité. Autant au match aller, vraiment, il y a eu match. Mais là, sur le match retour, clairement, le WAC était 2-3 niveaux au-dessus. Maintenant, pour Oroya, il y a une stabilité. Ils arrivent en quart de finale l'an dernier, cette année encore. Donc, ils sont en progression. Il y a un palier à franchir, mais...
C'est vrai que leur objectif, c'était au moins de passer.
Voilà, c'est ça. Passer à ce tour-là. Step by step, c'est comme ça.
Et bravo pour ce club, parce que c'est un nouveau, hein, c'est un nouveau parmi l'élite africaine.
Ils reviennent de loin.
C'est un ancien club, c'est vrai, mais c'est un nouveau. Ils reviennent de très loin.
Par rapport à ces 10 dernières années, comme le dit Willy, c'est vrai que c'est un renouveau. Et de revoir Oroya à ce stade de la compétition, je pense que c'est bien.
Bravo pour Oroya. Et voir la santé actuelle du football marocain, il n'y a rien à redire. Le WAC, c'est un ancien vainqueur de la Coupe.
Messieurs, je vous propose de passer une pause, n'est-ce pas? Et puis ensuite on revient, on aura après donc le tournoi des centres de formation,
exactement,
tournoi des légendes, et puis ensuite le gros dossier,
la CAN. Il y aura aussi Jean-Michel Gou.
Oui, bien sûr.
Le gardien
de la gifle internationale.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Bien sûr, sur Africa Radio, vous nous écoutez sur le 107.5 et puis à Abidjan sur le 91.1. Avec Christian Chango, avec le doyen Willy Dorkono, avec Hakim Djeloua, toute l'équipe de Tout Foot vous fait de gros bisous. On va peut-être parler cette fois-ci. Alors, en attendant d'avoir peut-être Rodrigue, il est bon? Non, on va essayer cette fois-ci d'avoir Monsieur Aï pour le tournoi des légendes. Le tournoi des légendes avec Aï. À moins qu'il n'y ait pas encore. Oh là là.
On va peut-être rappeler la date, c'est important. Voilà, ouais. Ouais. Tournoi des légendes, c'est un tournoi en fait de football qui met aux prises eh bien, tout simplement les meilleurs joueurs africains.
Les anciens, on en a parlé,
des années 90, des années 80. Et c'est un tournoi qui se déroule. On a la chance d'avoir ce tournoi à Paris, en Ile-de-France, du côté de la Porte de Montreuil, et plus précisément au stade Louis Lumière. Et donc c'est au mois de juin. Africa Radio, bien sûr, est partenaire de ce grand tournoi continental. Vous pourrez venir avec vos familles, avec vos enfants. N'hésitez surtout pas. Et il y aura aussi, tout simplement, des dédicaces signées Willy Dorkenou par toutes les légendes du football africain.
Oui, c'est la fête du football. C'était une grande fête.
En plus que... Notre ami et cher doyen ne veut pas jouer ce match-là, mais il y en a d'autres qui ont envie de jouer.
J'ai commencé plus tôt que les autres qui jouent. Donc, avec l'arthrose.
Il ne veut pas jouer, il va être le petit chi du tournoi. Jouer,
mais on a vu des Michel Colani qui étaient remplaçants jusqu'au bout des yeux. En tout cas, c'était incroyable. Quoi.
Mais c'était la fête quand même.
C'était la fête.
Non, mais c'est bien, il y a une soirée après.
Oui, comme d'habitude, il y a une soirée après. On avait vu les Pascal Fenduno. On avait
vu
Amara Simba, le roi de la bicyclette.
Le coach Lamine Badiane avec une reprise de volée tout droit dans la lucarne.
Non mais c'est bien, c'est une bonne chose que ce tournoi continue et ça prend de l'ampleur et on est fiers d'être partenaire de ce tournoi, de cette édition. On invite vraiment tous nos auditeurs, tous les amoureux du ballon, jeunes et plus jeunes, et vraiment tout le monde venait pour cette fête du football africain.
J'ai été contacté par les anciens de la Côte d'Ivoire, les anciens du Gabon aussi, donc ils vont voir ça avec Aï. Et ils m'ont contacté, donc je leur ai donné l'adresse de Haï pour qu'ils contactent.
Bon, pour le moment, donc, les candidatures sont ouvertes. Hein, je veux dire que c'est...
Donc,
On attend quatre équipes qui devraient être là. Ouais. Donc, on a parlé, bien sûr, de l'amicale des anciens Togolais. C'est eux qui organisent. Et puis, la Guinée, elle était là l'année dernière. Ils devraient revenir normalement. Il y a Espace FM qui devrait revenir. On les a contactés aussi, ils devraient revenir. Ouais. Et puis ensuite... Dernièrement, il y a la Côte d'Ivoire.
Oui, la Côte d'Ivoire qui a fait... ils ont appelé. Donc, il y a le Gabon aussi qui a appelé. Donc, on attend.
Ouais, les légendes du football ivoirien qui seront présents, mais notamment aussi de tous les autres pays africains. Coach Lamine, hein, à mon souvenir, donc c'était bien sûr tous les pays africains.
Ouais.
Il y a des Sénégalais, il y a des ex-internationaux sénégalais, maliens, donc n'hésitez pas à venir en famille, à participer, à assister à ce beau tournoi.
En attendant d'avoir le responsable, parce qu'on essaie de l'appeler, il n'est pas encore là. Ouais. Là, ce sont les conséquences du direct, hein, qui fait que chaque fois qu'on essaie d'appeler les gens, on n'y arrive pas. Nous allons parler, messieurs, du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations.
Ah ouais.
Christian Shango.
Oui, ça y est, c'est officiel, hein, le tirage au sort, il manquait plus que ça, a eu lieu donc vendredi, là, du côté de l'Égypte, une superbe cérémonie pour ceux qui ont pu assister et voir. Et donc, on connaît maintenant les six groupes du groupe A au groupe F, donc constitués de 24 équipes, hein, première Coupe d'Afrique à 24. Et pendant l'été, qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet, bien sûr en exclusivité sur Africa Radio, qu'on va couvrir ensemble et on va donner les groupes tout de suite.
Alors,
coach,
on va commencer par les groupes. Parlons, il faudrait rappeler peut-être que ça s'est déroulé vendredi dernier.
Exactement, hein, vendredi dernier, hein, du côté de l'Égypte, hein, pour ceux qui ont vu à la télé, derrière les pyramides, avec un beau feu d'artifice, avec un parterre d'internationaux récents et actuels et anciens du football africain. Donc ça y est, c'est parti, on connaît les groupes maintenant.
Moi, je voudrais juste vous poser une question avant qu'on ne parle des groupes. Étiez-vous d'accord sur la composition des chapeaux ?
Oui. Moi, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais pour ma part...
Quand je dis composition des chapeaux, c'est que sur ce chapeau, le chapeau 1, qui déterminait le tout, il y avait l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et le Cameroun. Ouais. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y avait quelqu'un ou une autre équipe qui aurait pu être là à la place de l'autre? Ouais, je pense par exemple à la Côte d'Ivoire, le Ghana.
La Côte d'Ivoire qui devait être à la place du Sénégal, par exemple.
Ou même la RDC. Pourquoi?
Ouais, mais pourquoi? Parce que moi, j'ai une idée précise du football africain. Je sais que la Côte d'Ivoire mérite plus d'être chapeau que le Sénégal.
Ah, ça, c'est ton autre débat.
Ouais, mais c'est pas un débat. C'est un constat.
Non, coach, moi je suis globalement sur le chapeau 1. Je suis globalement satisfait de la composition. Il y a le pays organisateur. Il y a le champion d'Afrique et il y a tous les premiers, sauf le Ghana qui était premier, mais dans un groupe à 3. On rappelle, la Sierra Leone avait été exclue de ce groupe-là. Donc pour ma part, tous ceux qui ont fini premier, c'est légitime qu'ils soient en tête de chapeau, en chapeau numéro 1. Après, si on avait dû prendre en compte les résultats des dernières années, pourquoi pas? Mais à titre personnel, je trouve la composition plutôt légitime, étant donné que ça a été basé sur les résultats et sur le terrain. Donc c'est le terrain qui a déterminé la position... des chapeaux, de la composition en tout cas du chapeau numéro 1. Donc je trouve ça plutôt légitime, coach.
Alors, Hakim, vous, de votre côté, vous étiez d'accord avec le chapeau numéro 1 ?
Pour le chapeau numéro 1, eh bien écoutez...
Il ne vous a pas manqué, il ne vous a pas semblé bizarre qu'on ait eu, par exemple, pas de Côte d'Ivoire, pas de Ghana et même pas de RDC ?
Ouais, après, c'est vrai que ça semble un petit peu bizarre de ne pas voir effectivement ces équipes-là, qu'on les mette dans les autres chapeaux. Ça peut étonner effectivement, mais d'une manière générale, je pense que le chapeau 1 était tout à fait équilibré, coach Lamine.
Alors.
Avec bien sûr le pays organisateur, l'Égypte, le Cameroun, Sénégal, Tunisie, Nigeria, Maroc. Non, moi je pense que c'était plutôt cohérent.
Après, on parlait pas de ça. On parlait justement du chapeau numéro 1. Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne manquait pas dans ce chapeau numéro 1?
L'Algérie, le Ghana, l'Algérie. Moi, je vous dis vraiment, pour moi, les résultats en parlaient. Ceux qui ont fini premier de leur groupe, en majorité, en priorité, étaient devant, sauf l'Algérie et le Ghana.
Alors, parlons un peu de ce groupe 1, de ce groupe A.
Le groupe A avec le pays organisateur, l'Égypte, avec l'Ouganda, avec le Zimbabwe et avec une des meilleures sélections de ce continent, la RD Congo, dans le groupe A présent. Donc Égypte, RD Congo, Ouganda et Zimbabwe. Sachant que le Zimbabwe et la RD Congo étaient déjà dans le même groupe en phase de qualification.
Alors Marco Momo, on vous a gardé pour le meilleur bien sûr. Alors comment ont réagi le peuple congolais à la découverte de ce groupe A entre bien sûr l'Égypte, l'Ouganda, le Zimbabwe.
Et la RD Congo, bien sûr.
Bien sûr. Ah, on l'a, allô ?
Marco ?
Les Zimbabwe, à ce stade de la compétition, c'est un peu comme une bête noire de la RDC au regard de la double confrontation entre la RDC et les Zimbabwe.
On les a pas battus.
Il y a 5 buts partout au match et tout. Justement, c'est aussi ça la grande peur même aussi. C'est peut-être une occasion pour Trezor Mputu de retrouver la terre qu'il a révélée au grand jour. On se rappelle de la CAN 2006 où Trezor Mputu s'est révélé avec ses bijoux marqués contre le Togo. Et puis par après, Trezor Mputu a été exclu contre l'Angola. Mais aussi, nous avons cette crainte puisque l'Égypte à domicile, c'est une équipe très forte. On le sait très bien, l'Égypte avait battu la RDC en 2006 par 4-1. La RDC était méconnaissable, même si les gens pensent que le match le plus facile sera contre l'Ouganda, mais il faudrait aussi avoir cette crainte par rapport à cette équipe ougandaise. C'est comme ce que disait le doyen Willy tout à l'heure. On connaît un peu à peine le football africain. Quand vous avez les clubs tels que le Kampala City Council, c'est une grande formation sur le plan africain. Il y a eu une certaine régularité lors des 3 dernières années. La preuve aujourd'hui avec l'Ouganda, il y a un latéral gauche qui évolue au sein du Tout-Puissant Mazembe Englebert, qui n'est pas de moindre, qui est en train de vendre une très belle image de football ougandais. C'est tout simplement dire que la RDC a encore cette crainte. On ne sait pas vraiment si la RDC pourra sortir de cette phase des groupes parmi les deux premiers. On sait qu'il y a l'Égypte qui est une bête noire pour la RDC. On sait également qu'il y a le Zimbabwe qui nous a pratiquement mis dans la merde avec cette victoire à Kinshasa et puis ce match nul. La RDC pouvait même rater la Coupe d'Afrique.
Oui, et Momo, je suis très d'accord avec toi parce que quand je vois ce groupe A, j'ai l'impression que la RDC, un grand pays de football, est entourée par des anglophones qui savent jouer les matchs de coupe. C'est-à-dire qu'il y a l'Égypte, il y a l'Ouganda, un ancien finaliste en 78, et le Zimbabwe qui ont le fighting spirit, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas battre. Donc vous avez raison d'avoir une crainte parce que il y a le seul pays francophone dans ce groupe, c'est la RDC. Mais les autres sont vraiment aguerris pour jouer les matchs de coupe.
Justement, comme vous l'avez dit, les autres sont vraiment aguerris. Pour la RDC, certes, on a des joueurs qui évoluent à des très hauts niveaux, mais messieurs, la sélection aussi pose problème. La sélection de Jean-Florent Ibengué, quand vous regardez des garçons à qui on a fait confiance récemment, les Marcel Tisserin ne sont plus titulaires, indiscutables au sein de leurs équipes. Chancel Bemba n'a pas profité du retour de Pepe au Portugal, puisque avec le retour de Pepe, Chancel Bemba est en train de suivre les bancs de touche. C'est à peine qu'on peut voir des Congolais titulaires avec leur club en Europe, mais peut-être compter sur des joueurs locaux, compter sur des garçons qui ont des performances aussi étincelantes telles que les Jackson Muleka avec le Tout-Puissant Mazembe Englebert et aussi avec la sélection de Léopards U23. On peut compter également sur des garçons tels que les Trezor Mputu qui font une très belle saison avec le Tout-Puissant Mazembe. Cédric Bakambu en Chine, on sait qu'il est en train de briller des mille éclats. Mais ce sont des individualités. Il faudrait qu'on travaille également les collectifs. La RDC, certes, on compte beaucoup plus sur les individualités, mais sur le plan collectif, c'est un grand chantier à faire, un très grand chantier. Espérons qu'on va mettre à profit les différents matchs amicaux demandés par certaines fédérations, notamment le Maroc, notamment l'Algérie. Espérons que la fédération va marcher dans ces pas-là pour que la RDC puisse quand même avoir des matchs amicaux qui pourront permettre aux sélectionneurs de faire asseoir une certaine philosophie. C'est vraiment hacher les jeux congolais. C'est vraiment hacher. C'est pas beau à voir.
C'est pas beau à voir, c'est effectivement le cas de le dire en sélection. Après, bon, je pense que cette Coupe d'Afrique va leur faire du bien. C'est vrai qu'ils sont pas dans la meilleure des poules avec l'Égypte qui a été mondialiste. On a d'autres mondialistes aussi dans le groupe B, c'est assez bien réparti. Le Nigeria, le Maroc avec le groupe D, la Tunisie qui se trouve dans le groupe E. Moi, pour le groupe A, moi, je pense que la RD Congo peut tirer son épingle du jeu.
Décidément, alors, techniquement. Ah, Christian Chango.
Oui.
Marco Momo, Christian Chango, Doyen Willy,
ouais.
Hakim, quel est votre pronostic pour ce groupe?
Moi, mon pronostic, c'est l'Égypte et le Congo, les anciens vainqueurs de la compétition.
L'Égypte, logique, en favori, ils sont chez eux, malgré la pression, ils devraient pouvoir s'en sortir. Après, c'est très ouvert entre les trois équipes. L'Ouganda est, sur ces 2-3 dernières années, une des meilleures équipes de notre continent. Le Zimbabwe a posé des problèmes à la RDC, mais je ne vais pas être impartial et je vais dire le Congo.
Faut rappeler que le Zimbabwe avait battu le Congo.
Oui, oui, bien sûr, ouais, c'est ça. On ne les a pas battus là en phase éliminatoire.
Lors de la troisième journée.
C'est ça. Donc, Je veux dire oui, l'Égypte et la RD Congo sur ce groupe-là. Hakim. Juste pour préciser, pardon, au niveau de la RD Congo, il y a la pression qui a été mise sur le sélectionneur et sur la sélection avec l'objectif, son contrat, le contrat de Florent Ibenga a été prolongé de 4 mois jusqu'à la CAN. Et en gros, on lui a mis la pression. S'il ne va pas en finale, s'il ne remporte pas la compétition, on enlève le sélectionneur. Donc pression maximum sur les épaules de la RD Congo.
Avant de laisser
gérer, c'est gérer la pression.
C'est un manque de respect. Donc.
Marco Momo, est-ce que c'est un manque de respect pour Florent Ibenga? Allô, Marco Momo.
Je pense, à mon avis, c'est un manque de respect à l'endroit de Jean-Florent Ibenga. 4 mois, pourquoi 4 mois? On a vu, il a fait ses preuves. Seulement que nos dirigeants sont un peu complexés. Ils nous accordent beaucoup plus de confiance aux sorciers, entre guillemets, blancs, et qui viennent. Et puis, avec les résultats, on connaît tous très bien. Parce que la RDC a eu des sorciers blancs qui sont passés. Mais la RDC n'est jamais parvenue au niveau des demi-finales. La dernière fois que la RDC a participé aux demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations, on se rappelle, c'était en 1998 avec le professeur Watunda, le feu professeur Watunda Lioul, Watunda qui a fait également beaucoup, qui est passé par beaucoup de clubs, notamment l'FC Saint-Éloi le Popo. Donc c'est tout simplement dire que Jean-Florent Ibenga, on doit aussi lui accorder, puisque là, les preuves sont avérées. Il a remporté les champs avec la RDC, il est arrivé jusqu'à l'étape des demi-finales. D'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, combien d'années après, on l'a vu. Donc, il faudrait qu'on prolonge ces garçons-là pour qu'il aille même jusqu'en 2020. Aujourd'hui, le travail avec la Mannschaft allemande, Joachim Löw est là depuis 2004 ou 2006, il est là et on l'a prolongé malgré les résultats chaotiques de l'Allemagne lors de la récente édition de la Coupe du Monde. Mais pourquoi on ne peut pas faire confiance à un fils du pays et lui accorder cette confiance-là qu'il prolonge jusqu'à même en 2022? Pourquoi pas? Il peut y aller, il peut aller en 2022 avec lui, on peut aller au Qatar. Il peut lui accorder quand même cette confiance.
Ok. Alors Selim, pour terminer sur le dossier du groupe A, alors vous voyez qui?
Alors déjà, pour répondre à votre question concernant les chapeaux, c'est pas normal les chapeaux là, parce que ils ont changé les règles. Ils se basaient sur les 3 dernières CAN. C'est maintenant 50 ans qu'on se basait sur les 3 dernières CAN. Maintenant ils ont changé, ils ont inclus le classement FIFA et c'est pas normal. Normalement on devrait retrouver la RDC chapeau 1, on devrait la Côte d'Ivoire chapeau 1. La Côte d'Ivoire reste sur une finale en 2015, un quart de finale en 2013, et même s'ils se sont fait sortir en poule, ils auraient eu plus de points que la Tunisie par exemple. La Tunisie reste sur 2 quarts de finale et une élimination en poule en 2013. La RDC reste sur une demi-finale. Le Ghana reste sur une finale et une demi-finale. Ouais. Donc c'est pas normal, la constitution des chapeaux, ils ont modifié les règles cette année. Ça fait 50 ans qu'on a toujours fait la même chose. Ils sont en train de dénaturer notre football. Et il y en a beaucoup qui se rendent pas compte, mais c'est un sujet que j'avais beaucoup évoqué, notamment sur le plateau et même hors antenne avec Doyen Willy, Hakim et Christian. Je suis en train de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a beaucoup de choses, même concernant les compétitions de clubs, qui sont en train de changer et dans le mauvais sens. Et c'est pas normal.
Ouais, même le format de la compétition, ça, c'est vrai que 24 équipes, ça fait beaucoup.
Ouais, mais c'est, non,
ça, encore, ça encore, c'est le business. Ouais, mais le truc, c'est que la constitution des chapeaux, on a les premiers à avoir eu ce mode de fonctionnement, c'est nous en Afrique. C'est-à-dire que c'est la CAF, la première confédération qui a utilisé le système des 3 dernières compétitions. Ça se faisait nulle part ailleurs. C'est pour ça que je vous dis que nous, on est les fondateurs de ce système-là et ils nous l'ont complètement chamboulé. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font que en Afrique et qui se sont dans d'autres confédérations par la suite qui ont pris exemple sur le
toi tu verrais comment Salim
et Salim comme on le dit souvent, j'ai même l'impression que les gens qui dirigent le football africain n'ont aucune idée du football africain. Moi ça me choque.
C'est ça qui est malheureux. Sinon, pour revenir au groupe A, je vois l'Égypte première avec l'Ouganda deuxième et la RD Congo en meilleure troisième.
Ok, merci.
Il y aura 3 meilleurs troisièmes, tout à fait. C'est la magie de la Coupe à 24. On peut finir troisième et se qualifier.
Merci. Merci. Merci à Marco Momo, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu sur la radio africaine.
Salut, merci Marco Momo Emery.
Merci moi, Nakitoko.
Je vous en prie.
Ok, merci. On va revenir un peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, le tournoi des légendes, puisqu'on a réussi à avoir Monsieur Aï
Ajavon.
Monsieur Aï Ajavon, qui avait disparu, je ne sais pas, il était dans les légendes là. Monsieur Aï, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir l'antenne.
Bonsoir.
Alors, deuxième édition du tournoi des légendes, donnez-nous les dates, dites-nous comment ça va se passer. Est-ce que ce sont les mêmes équipes qui vont recommencer? Alors, comment ça se passe pour le moment? Où est-ce que vous en êtes? Il faut rappeler c'est Espace FM qui avait remporté la première édition. Hein.
On va les taper.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est la deuxième édition.
Oui.
C'est la deuxième édition et cette année, le parrain du tournoi, c'est Emmanuel Adebayor.
Ah ouais, d'accord.
Donc, général.
C'est le parrain de ce tournoi.
Ouais.
Et cette année, il va en avoir quatre équipes.
Ok.
Donc, il y a l'Espace FM,
ouais.
Le vainqueur du tournoi de l'année dernière.
Ouais.
Le Togo.
Oui, comme d'habitude.
La Côte d'Ivoire.
Oui.
Et la Guinée.
Ah, super. Ah,
un beau plateau. Voilà. Hein.
Alors, quelle est la date exactement?
La date, c'est le 8 juin. Le 8 juin.
8 juin.
Ouais, le 8 juin.
Notez bien sur vos agendas, auditrices, auditeurs, et tous les fans du ballon rond, les familles.
Et monsieur Ajavon, après le tournoi, il va avoir une soirée, une fête, non?
Après le tournoi, on va se retrouver à une soirée, à une grande soirée.
Ah ouais,
de légende.
Mais avant, il faut quand même aussi préciser que Willy, doucement, il va y avoir du football. Il va y avoir des matchs avec des légendes du foot africain.
Il va y avoir du football, il va y avoir les anciens qui vont essayer de se retrouver et puis de partager ce qu'ils ont donné.
Ouais.
Allez, voilà, donc il va y avoir du foot. Dans la journée, c'est le soir qu'il y aura la fête.
Ah,
alors, en tout cas, M. Haï, nous reviendrons en long et en large, puisque nous sommes des partenaires.
Oui.
De ce tournoi. Nous reviendrons en long et en large par rapport à ce...
Oui.
À ce oui.
Et comme on le fait souvent, les équipes même seront invitées sur le plateau.
Mais bien sûr.
Oui, ouais,
bien sûr.
Voilà, vous allez même, pourquoi pas, mais Emmanuel Adebayor, là, il attend votre coup de fil. Je vais essayer de voir ça avec lui.
Ok,
ouais, bien sûr.
Vous allez essayer de caler une date, vous allez l'appeler.
Une date, ouais, pour l'appeler.
Lui-même, il va essayer de parler.
Okay.
Complètement, ouais. Avoir son avis, ça serait bien.
Très bien.
Mais il attend votre coup de fil.
Ok.
Ah, super. Donc c'est le 8 juin, à partir de quelle heure, Haï?
Le 8 juin, c'est à partir de 13h.
À partir de 13h au stade Louis Lumière à Port de Montreuil.
Paris 20.
Merci, monsieur Haï. On va rapidement aller parce
merci
que le temps presse. Deuxième tournoi, c'est celui des centres de formation à Cotonou.
Merci, Haï.
Celui des centres de formation de Cotonou,
ouais,
qui va se dérouler à partir de lundi prochain. On a Rodrigue, l'un des organisateurs de ce tournoi. Rodrigue, vous êtes avec nous, bonsoir.
Bonsoir, chers amis, bonsoir à mes auditeurs.
Alors,
tout le plaisir est pour moi.
Alors, d'abord, éloignez-vous de votre radio, éteignez la radio, répondez sur le téléphone. Et puis,
exactement.
Et puis ensuite, ce n'est plus Africa numéro 1, c'est Africa Radio.
Ouais. Vous allez payer le café.
Africa Radio, exactement. Africa Radio.
Ouais. Ok. Alors, donc, dites-nous tout.
Bon, d'abord, je vous remercie pour cette belle opportunité que vous me donnez à l'international de parler de ce tournoi. Ce tournoi qui est à sa 9e édition. Et nous sommes à moins d'une semaine de cet événement. Une semaine, puisque cette 9e édition du tournoi international des centres de formation de football du Bénin accueille ses invités dès le 19 avril, c'est-à-dire vendredi prochain. Et sur les 12 délégations, 9 viennent d'autres pays africains. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, on vous suit.
On vous écoute.
Voilà, donc je vous disais qu'il y aura 12 délégations, dont 9 venant d'autres pays africains. Nous avons pour la toute première fois, la Guinée, qui sera représentée par l'Académie Safa Disport de Conakry.
Ouais.
La Côte d'Ivoire, elle est une habituée de ce tournoi, toujours présente depuis 5 années. Elle sera représentée par le FC San Pedro, qui a fait une très bonne figure l'année dernière et dont la plupart des joueurs sont maintenant montés en première division. Donc, le FC San Pedro revient avec un groupe rajeuni, j'allais dire un groupe rafraîchi. Et en tout cas, lorsqu'on longe la côte, on retrouve le Ghana, un autre habitué donc du tournoi international des centres de formation. D'ailleurs, une fois champion, c'était, je me rappelle, à la 7e édition, le Ghana sera Donc, le Ghana sera présent à Porto Novo avec l'Académie Star Makers d'Accra. Star Makers, c'est en anglais, donc c'est une académie qui fabrique les stars, donc qui viendra du Ghana. Mm-hmm. Et le Burkina Faso...
Allô? Ah, on a été coupé. On l'a perdu. J'espère que ce n'est pas une question de... En attendant, on va continuer. Allô, Rodrigue, vous êtes avec nous? Non, pas encore. On va essayer de régulariser tout ça. En attendant, Jomo Dobeng, rapidement, vous êtes avec nous?
Oui.
Alors, éteignez votre radio, Jomo, vous le savez bien.
Oui, coach. Allô?
On vous écoute.
Allô?
On vous écoute.
Jomo?
Oui, allô?
On vous écoute, Jomo.
Bon.
Oui, allô?
Oui, alors, on vous reprend. Rodrigue, c'est terrible la technique.
Je suis désolé.
Non, mais...
Allez-y, Rodrigue.
Allez-y, on vous écoute.
Voilà, je suis désolé, donc je vous parlais du Ghana, qui est un grand habitué donc du titre des F, qui était champion, c'était à la 7e édition, le Ghana, donc qui sera présent à Porto Novo avec l'Académie Stars Makers d'Accra. C'est vrai, on aura pas salé le Togo, mais le Nigeria, oui, avec deux délégations. Vous n'êtes pas sans savoir que ce pays est le grand voisin du Bénin. Et chaque fois, le Nigeria place au moins deux académies dans la compétition. Son seul FC, qui était déjà l'année dernière, et revient avec un autre centre de formation cette année. Retenez que l'Afrique centrale ne sera pas absente dans ce tournoi, un tournoi que beaucoup se permettent d'ailleurs d'appeler la Coupe d'Afrique des Académies. Donc, oui, bien sûr, parce que c'est une compétition qui s'élargit davantage, qui gagne du terrain en Afrique. Cette année, par exemple, l'Algérie a tenu à être présente, mais compte tenu d'un certain nombre d'exigences, il fallait impliquer le ministère de la Fédération, le ministère de l'Affaires étrangères. Ouais. Il fallait impliquer un certain nombre aussi pour finir même le gouvernement. On n'a pas encore atteint cette dimension. Donc, on a mis l'Afrique du Nord en stand-by. Donc, je disais que l'Afrique centrale sera donc représentée par le Grand Cameroun avec l'Académie Terre de Football de Douala.
Alors, Rodrigue, au-delà de tout ça, il faut considérer aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent... voire un peu recruter, scruter, et surtout du côté des personnalités du football. Je sais qu'il y a un Jafet Ndoram qui doit venir, Michael Sylvestre, il me semble,
oui.
Eric Atta, beaucoup de recruteurs, des recruteurs de Dijon. Tout ça, c'est pour cette 9e édition, vous avez fait les choses en grand.
Oui, vous savez, au départ, c'était pas évident, mais à un moment donné, du moment où les gens commencent par vous faire confiance, les gens commencent par vous féliciter pour la qualité de l'organisation, pour ce qu'une petite équipe met en place, on n'a plus le droit donc d'abdiquer. Donc c'est pour ça, comme vous le dites, on essaie quand même de mettre l'équipe là dans les grands. Et chaque année, nous apportons une petite innovation donc à cet événement. Il y a quelques années, j'avais dit il y a précisément 2 ans, c'était Tristan Karambeu qui a accepté donc d'être présent sur l'événement. L'année dernière, c'était Jean-Pierre Papin qui devait être là, mais à la dernière minute, compte tenu d'un certain nombre d'occupations, il a dû se faire remplacer par Michael Sylvestre, qui revient donc cette année avec tout ce que vous avez cité. Plusieurs clubs de Ligue 1 donc, vont envoyer des représentants, des directeurs sportifs, un certain nombre d'encadreurs qui viendront voir ce label que le Bénin est en train de mettre en place à travers donc, le titre 2F. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. C'est un grand événement. Nous mettons donc les petits plats dans les grands pour accueillir toutes ces délégations. Les recruteurs, on parle d'une quarantaine qui sont annoncés. Il y a d'autres qui arrivent, même sans s'annoncer, parce que c'est une compétition des jeunes. Ça regroupe les académies, donc les U17. Donc, ça intéresse beaucoup de clubs, ça intéresse beaucoup d'équipes. Donc, les gens vont, malgré qu'il y ait beaucoup d'événements sur le continent, vous savez qu'il y a également la Coupe d'Afrique des jeunes qui s'organise. Il y a beaucoup donc d'événements, mais ce tournoi attire du monde et nous attendons beaucoup de personnes, des recruteurs et d'autres personnalités qui se sont annoncées pour accompagner l'événement.
Merci Rodrigue, merci d'être venu sur la radio africaine, merci d'être venu sur Africa Radio. En tout cas, c'est un tournoi que nous allons suivre avec plaisir, d'autant plus que c'est un tournoi où on a vu des gamins sortir, être signer des contrats professionnels. Donc,
si vous le permettez, si vous le permettez, parce que vous parlez donc de ces gamins qui sont sortis, il y a le Mali qui d'ailleurs vient de placer l'un de ses joueurs, qui un de ses joueurs qui était donc il y a 2 ans et l'année dernière sur le tournoi, qui vient de signer son premier contrat professionnel. Du côté de la Norvège, il y a beaucoup d'autres, un Nigérien qui a signé donc également son premier contrat. Il y a un Burkinabé qui était ici, le Burkina Faso a été champion donc il y a quelques années. Donc il y a l'un de ses joueurs qui a signé donc en Suède, ça veut dire que eh bien, ce tournoi apporte beaucoup à la jeunesse africaine, apporte beaucoup donc, aux différentes équipes. Et c'est pour ça que nous vous remercions de nous donner cette opportunité d'en parler et de faire savoir sur le continent africain qu'il y a quelque chose qui se fait en dehors de ce qui se faisait déjà en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans d'autres pays, et qui apporte quelque chose de plus à la jeunesse africaine.
Merci beaucoup, Rédric. Merci. Merci beaucoup. Merci mille fois, en tout cas, par rapport à ce tournoi des TIX. Je rappelle que ce tournoi, dès la semaine prochaine, va commencer et va durer une semaine. On va faire une pause et on revient tout de suite.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
La radio africaine, mais ouvre vos micros, nom de Dieu, c'est pas possible ça. C'est une punition chaque fois que je viens, hein, c'est incroyable. Avec Christian Chango, avec le doyen Willy Dorcono, avec Akjelouad, bien sûr, et au micro. Et à la manette, comme on dit, c'est Hélène Bizio qui ne fait que des bêtises. On va passer maintenant au groupe B. Le groupe B, mon cher ami Christian Chango.
Le groupe B avec le Nigeria, la Guinée, le Madagascar et le Burundi. Les 4 équipes hein, qui constituent ce groupe. On va rappeler, le Nigeria a fini premier du groupe E. La Guinée a fini première du groupe H. Madagascar a fini deuxième du groupe A. Et le Burundi a fini deuxième du groupe C. Juste derrière le Mali.
Doyen Willy.
Oui, c'est un groupe qui est composé de 2 cadors du football africain, c'est-à-dire le Nigeria et la Guinée, et qui accueille des nouveaux venus de la compétition, Madagascar et Burundi. Donc c'est clair et net, c'est divisé. Donc il y a les cadors plus les nouveaux arrivants. Donc ça va faire, on va les voir venir et se frotter contre les grands, c'est déjà bien. Bonne expérience pour ces nouveaux. Donc, je suis content pour ce groupe. Donc, dans le groupe, moi, je vois déjà que le Nigeria et la Guinée vont sortir.
Moi, sur ce coach groupe, sur ce groupe, j'attends beaucoup de la Guinée. On met les mots dans l'ordre, excusez-moi. J'attends beaucoup de la Guinée, hein, qui a fini première de son groupe avec 3 victoires et 3 nuls. Ils avaient fini donc premier du groupe devant la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont sur une bonne forme depuis là, 2 ans maintenant. Ouais. Depuis qu'ils ont enlevé l'ami du doyen Willy, Luis Fernandez, à la tête de cette équipe et qu'ils sont repartis sur des bonnes bases. Donc, j'attends de voir avec impatience ce qu'ils vont nous montrer lors de cette CAN. On a vu avec Oroya aussi qu'il y a de bons résultats. Donc, au niveau du football local, ça se porte mieux. Et la sélection est emmenée par des éléments forts, comme Naby Keita, qu'on a vu briller hier du côté de l'Angleterre avec Liverpool. Donc, cette équipe-là, je l'attends vraiment au tournant et hâte aussi de voir Madagascar et le Burundi, hein, voir Madagascar, ce qu'ils vont faire. Ils ont été brillants lors des éliminatoires. Le Burundi, pareil. Et le Nigeria, de Garnot, s'ils vont confirmer leur statut.
Comment on appelle l'équipe nationale du Burundi ?
Du Burundi ? Je laisse le doyen Willy me sauver.
Les Hirondelles.
Les Hirondelles.
Hakim, alors, pour vous, ce groupe B ?
Un groupe B intéressant, groupe B, coach Lamine, intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a une première nation qui se qualifie historiquement à cette Coupe d'Afrique des Nations, Madagascar. Faut quand même.
Alors, personne ne parlait de Madagascar. C'est pourquoi je suis tout à fait étonné.
Voilà, faut toutefois en parler. Mais moi, je t'en parle, coach Lamine.
Parce que même au niveau de la CAF, on les avait éliminés, on les avait oubliés.
Oui, mais dans le piège. Ils ont leur président qui est à la tête.
Dans le groupe A, dans les éliminatoires, ils ont été premiers, on va dire, avec le Sénégal. Ce sont les deux, effectivement, qui se sont. Qui ont réussi à se qualifier aux dépens de la Guinée équatoriale et du Soudan. Faut le rappeler, hein, Madagascar, c'était 10 points. Deuxième, juste derrière le Sénégal, 16 points dans le groupe A lors des éliminatoires. Et ils ont tenu eh bien la dragée haute à toutes ces sélections. Et je pense qu'il faut tirer il faut tirer un gros coup de chapeau à Madagascar parce qu'ils avaient aussi réussi à malmener, bien sûr, quelques sélections sur ce groupe, coach Lamine, pendant tout le parcours du 9 juin 2017 jusqu'à mars 2019 avec des résultats intéressants, des résultats probants. Donc, il y avait eu un match nul contre le Sénégal, par exemple, ce que je regarde en face de moi, deux partout. Mada, non, je pense qu'ils sont à leur place. Et puis, c'est bien de voir des petites nations qui sont présentes, Burundi ouais. Également. Christian l'a dit et aussi hein, de voir la Guinée à cette Coupe d'Afrique des Nations, ça va être très 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 intéressant.
Après l'espoir, il y a de l'espoir pour toutes les équipes hein, dans cette compétition puisqu'on rappelle, hein, il y a 4 meilleurs 3e qui vont se qualifier. Donc a priori, même s'il peut y avoir deux ogres dans la poule, le meilleur 3e peut se qualifier aussi. Donc ça permet à des équipes d'espérer, même si a priori. Ça reste qu'un avis. Le Nigeria et la Guinée sont quand même devant. Ouais.
Messieurs, je vous propose d'aller rapidement du côté de voir le groupe E.
Non,
non,
le groupe C.
Non, non, plutôt. On va sauter puisque nous avons Jocelyne avec nous. Et parler rapidement du groupe F avec le Cameroun, le Ghana, le Bénin.
Et la Guinée-Bissau.
Et la Guinée-Bissau, Christian Chango.
Oui, le groupe F, hein, tu l'as dit, avec le champion d'Afrique, le Cameroun, le Ghana, le Bénin qui a sorti le Togo du doyen Willy et la Guinée-Bissau. Donc le groupe F hein, avec deux ogres quand même et le Bénin et la Guinée-Bissau qui sont là en place. Donc on aura encore droit dans un groupe relevé. Hein. Le Cameroun a fini deuxième de son groupe, le Ghana premier, on l'a dit, le Bénin deuxième et la Guinée-Bissau premier de son groupe.
Guinée-Bissau premier du groupe quand même, ça, c'est quand même assez étonnant. Hein.
Oui, devant la Namibie.
Alors, on va aller du côté de Cotonou rejoindre Jocelyne. Jocelyne Senaou, journaliste à l'ORTB. Ouais. Jocelyne, bonsoir. Est-ce qu'on entend Jocelyne ?
Bonsoir à tous les auditeurs de Africa numéro 1.
Alors, c'est salut, Africa Radio.
Africa Radio.
Oui, alors.
Bonsoir Jocelyne.
Jocelyne, à fond gardien.
En fond
de
l'année.
Ah ouais.
Vous parlez de nous, là. Alors, Jocelyne, vous avez entendu le tirage au sort qui a eu lieu vendredi dernier et vous a mis dans le groupe F. Quand j'ai dit vous a mis, c'est bien sûr l'équipe du Bénin, les écureuils du Bénin, avec le Cameroun, le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau. Alors, comment le public a réagi à ce tirage au sort?
Je pense que le public dit que c'est un groupe jouable. C'est un groupe qui est quand même un peu relevé parce qu'il y a le Cameroun qui est tenant du titre, qui se retrouve là dans le groupe F avec nous. Le Cameroun qui a à son actif 5 Coupes d'Afrique des Nations. Ouais. Il y a également le Ghana qui a 4. Ouais. Donc je pense que le petit poussé là, c'est la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qu'on ne va pas regarder aussi de haut parce que bon... la Guinée fait une deuxième participation consécutive, donc ouais. Le pays qu'il faut aller prendre très rapidement, c'est la Guinée. Et puis bon, pourquoi pas ne pas avoir un nul face au Ghana ou encore face au Cameroun, parce que le plus important, c'est déjà de passer le premier tour. Donc on ne va pas cracher sur les victoires, on va les prendre si elles arrivent. Sinon, le plus important, c'est déjà de jouer la petite finale là entre le Bénin et la Guinée-Bissau.
Vous n'êtes pas très raison. Ambitieux là.
Oh, non, c'est pas une question d'ambition. Elle a bien dit que les records, les pays qui ont le record en gagnant la Coupe de la CAN, il y a le Cameroun qui a gagné 5, le Ghana qui en a gagné 4, se retrouve avec des pays comme le Bénin et la Guinée-Bissau. Elle a raison, elle est réaliste. Mais ouais. il faut se bagarrer parce qu'il y a une troisième. Meilleure place à prendre. Donc, le Bénin va jouer son derby contre le Ghana, parce que c'est des voisins. Ouais. Donc, c'est plus jouable face au Ghana que face au Cameroun, moi je trouve.
Alors, est-ce que vous pensez réellement, Christian Shango, Hakim, que le Bénin a sa chance dans ce groupe-là?
Tu m'aurais demandé ça pour une CAN à 16, je t'aurais dit peut-être ça aurait été compliqué, mais pour une CAN à 24... Ouais.
Peut-être parmi les meilleurs troisièmes.
Ils peuvent créer la surprise aussi.
C'est ce que j'ai dit.
Voilà, je veux pas dévaluer le Bénin, ouais. Bien au contraire, ils se sont qualifiés. Et il faut qu'ils surfent sur la confiance accumulée lors des derniers matchs et qu'il y ait une bonne préparation derrière. Après, le Bénin, s'ils sont dans l'état de solidité que nous montrait surtout lors des derniers matchs, ils peuvent espérer pourquoi pas sortir de ce groupe. Après, il y a quand même le Ghana et le Cameroun qui se remettent bien là avec Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Ouais. Et le Ghana qui reste un des ogres de notre continent. Donc le Bénin peut espérer sa qualification, mais il ne faudra pas se louper et laisser passer les rares occasions que l'équipe aura.
Et le Bénin a sa chance à jouer contre le Ghana et surtout. Donc,
Et puis, dans ce groupe-là, l'atout du Bénin, c'est le coach Michel Dussuyer, qui est quand même très expérimenté, il faut le dire, à la CAN, comparativement aux autres entraîneurs. Je vais parler de Seedorf, de celui de la Guinée, qui découvre pour la deuxième fois la CAN, et de celui du Cameroun. Je pense que Dussuyer, c'est plusieurs participations à la CAN. Donc, c'est déjà un atout que le Bénin a. Et bon, le reste, ça va se jouer sur la préparation, sur tout ça. Et puis bon, voilà.
Justement, à propos.
Ça, c'est le premier tour. Parce qu'il faut rappeler que le Bénin a une Coupe d'Afrique des Nations, n'a jamais pu passer le premier tour. Et ouais. L'objectif, cette fois-ci, c'est déjà de passer le premier tour. Et pourquoi pas aller en huitième de finale et aller en quart de finale, en demi-finale. Et pourquoi pas ramener la Coupe.
Ouais, ça, c'est sur PlayStation, ça. Hein. Ça, c'est sur PlayStation que de ramener la Coupe. Hein. Ça, c'est pas possible, ça.
Moi, je veux bien dire que c'est un bon groupe que le Bénin a hérité parce que le plus dur serait que le Bénin se retrouve avec une équipe comme l'Égypte, la RDC, le Nigeria, le Sénégal. C'est vrai que bon, chez nous, on a le Ghana, on a le Cameroun aussi champion aussi. Mais il faut dire qu'actuellement, le Ghana n'est pas très flamboyant. Ils sont en transition. C'est pas le Ghana qu'on a connu dans les années passées. Donc, ça peut se jouer. C'est déjà de faire un mieux de gagner le Ghana. Parce qu'on joue le tout premier match contre le Ghana, le 25 à Ismaïla. Voilà. Donc, c'est déjà de gagner le Ghana ou de faire un nul et de tout faire pour gagner la Guinée-Bissau. Parce que bon, c'est déjà ça, quoi.
Ouais, mais Jocelyne, c'est pour ça que je pensais et j'avais dit que le coup serait faisable face au Ghana.
Il y a une chose que je voudrais vous poser une question parce que j'ai l'impression que le championnat a repris, les matchs retour ont repris, n'est-ce pas?
Tout à fait, les matchs retour ont repris. Alors, deux autres journées sont passées déjà et voilà, le championnat fait son coup. Au total, ça fait 22 journées pour le championnat, donc ça fait son coup, voilà.
Et depuis la qualification, il y a des joueurs qui sont en train de revenir dans le championnat pour pouvoir peut-être participer à la Coupe d'Afrique des Nations ou même peut-être au CHAN aussi.
Exactement. Bon, ouais. À la Coupe d'Afrique des Nations, je ne vais pas dire affirmatif, mais au CHAN, oui, parce qu'il y a Mouri Ogoubili qui est revenu avec les Dragons de Boudé. Il y a également Razak Omotoyoti qui est de l'autre côté avec l'US Traqué. Quand même, ils sont revenus et puis ça a donné un autre visage au championnat du Minois. Ça a pris une autre tournure le championnat du Minois. Et voilà, bon, il y a le CHAN, je pense que c'est déjà sur ça qu'il faut surfer. Mais la CAN, bon. Les voir à la CAN, c'est pas ce qu'on pensait. Mais bon, au CHAN, oui, c'est possible, quoi.
Ouais, même si le CHAN a changé de lieu, Christian Shango, hein.
Oui.
Ce n'est plus au Soudan ou
en Éthiopie. Ce sera du côté du Cameroun.
Du Cameroun,
hein. Ce sera un test pour préparer la CAN
2021.
Ouais, ça tombe bien, parce que j'avais un joueur là-bas que j'avais ramené en Turquie. Entre temps, il jouait au Dragon de l'OMA, il s'appelle Jalilou Ouro, je ne sais pas si tu joues toujours. C'était un latéral, un bon latéral.
Il a disparu de la circulation. Non. Toi, tes joueurs disparaissent toujours.
C'est un jeune.
Ils prennent les valises.
C'est pour le moment, on n'entend pas encore parler de lui, mais du côté des Dragons, c'est beaucoup plus Mouri Ogoubili qui a déjà signé.
C'est un ancien, lui, c'est un revenant, carrément.
Déjà, un ancien, voilà, qui est revenu et il est en train de faire fort, donc bon. Je pense qu'il aura sa place pour le CHAN. Ça va être beaucoup plus tard. Et non pour la CAN.
Hakim, un mot sur les agoutis du Bénin?
Alors,
Déjà, bah, bonsoir Jocelyne, très content de vous avoir parmi nous.
Bonsoir.
Ça fait plaisir d'avoir une voix féminine dans ce groupe.
Ouais, c'est ça.
D'hommes dans tout feu, tout foot. Non, c'est vrai, c'est un plaisir de vous avoir
t'as
avec
raison,
nous. Bah, non, mais
c'est maintenant qu'il le demande.
Coach Lamine, parler du Bénin, effectivement, c'est parler de leur parcours. Ça a été un parcours intéressant. Parsemé d'embûches, c'est vrai, mais un parcours qui a été au mérite et le Bénin a réussi à tirer sa qualification de quelle manière, donc vraiment d'une belle manière, malgré la défaite coach Lamine face à la Gambie, bien évidemment, avant leur victoire lors de leur dernière journée, la sixième journée face au Togo de 1, c'était un match tant attendu face à son voisin, et le Bénin qui a réussi à arracher sa qualification de quelle manière. Je pense que c'est un signe fort du Bénin pour montrer que le Bénin est là, le Bénin est présent et le Bénin revient dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour cette édition 2019.
Un mot, un dernier mot, Jocelyne. Est-ce que la préparation se passe bien?
Bon, pour le moment, la préparation n'a pas démarré avec les écureuils parce que, bon, la majorité, c'est des internationaux, donc le regroupement n'a pas encore été fait. Mais puisque le tirage a été fait, je pense que le coach est en train de mettre en place un programme qu'il va dérouler. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore de préparation qui se fait au sein de l'équipe nationale. Et je voudrais revenir sur Oro Dalilou dont parlait tout à l'heure.
Ouais.
Je pense qu'actuellement, il est avec la jeunesse athlétique de Cotonou. Il n'est plus avec les Dragons.
Okay.
Il joue le championnat, mais du côté de la JAC avec la jeunesse athlétique de Cotonou.
Merci beaucoup.
Merci Jocelyne, merci d'être venu sur Africa Radio. Et puis, bravo encore, hein, une fois. Hein. Merci,
ouais. merci pour les éclaircissements.
N'est-ce pas?
Awanu.
Puissant Shango, oui.
C'est un plaisir.
Awanu.
À bientôt, Jocelyne.
À bientôt.
Il est mort de rire, hein, Christian Shango. Ouais.
À bientôt, Jocelyne, et coucou au président Kindele aussi. On passe le coucou.
À bientôt.
Au revoir.
Messieurs, nous allons passer à un autre groupe. Le groupe C avec le Sénégal, l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie.
Groupe très relevé, messieurs, ouais. avec le coach Lamine, avec Hakim, avec le Kenya, avec la Tanzanie. Ça va être un groupe relevé avec un des grands classiques, un des chocs de cette compétition qu'il va y avoir entre le Sénégal et l'Algérie. Ouais. Attention au Sénégal, hein, vous n'avez plus battu l'Algérie depuis 2008. Et là, c'est rare, mais c'est la troisième CAN consécutive que le Sénégal et l'Algérie sont dans le même groupe. Donc, attention, moi, je...
Cette fois-ci, ils n'auront aucune chance.
C'est pas fini. Christian, c'est pas fini. Il y a deux anglophones dans le groupe aussi.
Et en plus, tout à fait. C'est un groupe très, très relevé. Le Kenya, hein, qui... Moi, vraiment, sur ce groupe-là, je sais pas qui je mettrai en avant, mais ça va être un groupe que j'attends avec partie.
C'est ce groupe-là où devait être le Burkina Faso. On va appeler Adama. Adama, bonsoir. Vous êtes avec nous.
Adama Sourabier.
Adama Sourabier. Dans le groupe
bonsoir,
C.
Coach Lamine,
je cherche partout.
Bonsoir, Adama.
Bonsoir à Kim Diloane. Bonsoir à Roger.
Bonsoir, Adama Sourabier.
Hola, hermano.
À Hélène, bonsoir à toutes les autres.
Ouais, non, mais parlez-nous du Burkina Faso aussi, tout.
Oui, le Burkina Faso.
Mais c'est fini.
Ils sont pas là. Aujourd'hui, ok. Donc, Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie.
Laissez-le parler, l'ami. Laissez-le parler.
Voilà. Coach Lamine, ne vous inquiétez pas, le Burkina Faso en repos. Ils vont assister la CAN devant leurs petits écrans.
C'est ça.
Et le Burkina Faso reviendra plus fort.
Ouais, exactement.
Voilà, Amine.
Et aujourd'hui, dans ce groupe C, il faut reconnaître que il est très difficile de jouer le groupe sur le papier.
Ouais.
Mais il sera étonnant de ne pas voir le Sénégal et l'Algérie se sentir de ce groupe. Donc moi je n'ai pas de doute pour le Sénégal et l'Algérie dans ce groupe. Donc c'est vrai et que quand on voit ces équipes, ces quatre nations. On a souvent l'habitude de dire, en regardant le tirage au sort, on peut se dire, bon, ça va, le Sénégal et l'Algérie se frottent les mains, ils vont y aller. Mais attention, attention au Kenya et puis à la Tanzanie, on a vu le Burkina Faso par rapport à la Mauritanie.
Ouais.
Donc, je crois que tout dépendra d'une bonne préparation, aussi du bon repos des internationaux qui vont tenir vraiment et difficilement les saisons européennes.
Ouais.
Et il faut tenir compte de tout ça. Puisque aujourd'hui, les équipes, ceux qui évoluent dans les équipes européennes, souvent disputent deux matchs dans la semaine.
Ouais.
Et donc, en arrivant en fin mai, il va sentir qu'il y aura la fatigue qui va se faire ressentir à quelque part.
C'est ça. Pardon, excuse-moi, Adama, je te laisse terminer, pardon.
Voilà. Je crois que tout va se jouer à ces détails. Mais quand même, dans ce groupe C, mes nations favorites, c'est le Sénégal et l'Algérie.
Ouais.
Oui, coach.
En gardant tout le respect pour le Kenya et la Tanzanie.
C'est ça, coach. Adama a soulevé un point important et c'est valable pour toutes les sélections, mais encore plus pour le Sénégal, notamment, qui fait évidemment partie des favoris. Hein. 5 victoires et 1 nul pour se qualifier. Mmh. Parcours quasi parfait. Attention aux blessures, on a déjà perdu Khadim Ndiaye là qui s'est blessé. Mmh. Et je repenserai toujours à l'an dernier pour l'Égypte, Mohamed Salah qui a fait une saison exceptionnelle et qui s'est blessé pour la finale de la Ligue des Champions. Exactement. Derrière la Ligue pour la Coupe du Monde, il est amoindri. Je touche du bois vraiment, Sadio Mané, on l'a vu encore ce week-end avec Liverpool. Il y en a beaucoup des Africains du côté de Liverpool qui a encore mis un but exceptionnel. Donc vraiment, il faut espérer que pour tous nos internationaux, toutes sélections confondues, tout le monde arrive reposer et en bonne santé.
Oui, mais l'inconvénient, c'est que la CAN se joue cette fois-ci
en juin.
Donc, les joueurs seront en vacances.
Après le ramadan.
Oui, ils seront en vacances. Donc, ils vont être vraiment au bout de leur peine.
Coach Lamine, Doyen Willy, Hakim Dielouat, Christian Chango, permettez-moi de vous dire que on dit cette fois-ci, la CAN se joue au mois de juin.
C'est déjà joué.
Vous avez vu qu'au niveau du calendrier européen, quand la Coupe du Monde se joue en juin, le calendrier est plus avancé.
Oui,
mais
c'est
les
vrai.
Les Européens n'ont pas tenu compte de notre
Coupe
d'Afrique des Nations.
Ah non,
c'est vrai. Donc on finit en mai, le 21 mai, généralement tous les championnats, et notre Coupe d'Afrique commence au mois de juin.
Et c'est ce que j'ai dit,
donc, le 21. Ouais.
Voilà. Et donc il peut y avoir un souci.
Ouais.
Et même si ce n'est pas des blessés, parce qu'on demande beaucoup pour ceux qui sont titulaires dans les grands clubs en ce moment, il n'y a pas du tout de repos. Imaginez-vous que toute la saison, ils n'ont pas arrêté entre les championnats de leur pays respectifs où ils évoluent, aussi les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, et ça va faire beaucoup de matchs en fin de saison. Ouais. Donc,
C'est bien vu.
Que le président de la CAF,
qui
et l'équipe dirigeante, y tiennent compte.
Qui ça?
Et lors de la prochaine Coupe d'Afrique, à cette période, qu'ils essaient de voir aussi avec l'UEFA pour essayer de nous donner cet avantage de terminer plus tôt les championnats européens.
Ouais. Voilà.
En tout cas, donc, groupe C, Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie. Je vais vous donner peut-être juste un petit secret, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui n'ont réellement pas envie d'y aller.
C'est vrai?
Ouais. Ah bon? Mmh. Oui, mais c'est...
Allez, je ferme la parenthèse. Vacances,
on en reparle dans quelques semaines.
Messieurs, le groupe D.
Le groupe D, messieurs.
Alors, le groupe D,
encore un groupe relevé avec le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Dans ce groupe-là, il y aura sûrement un meilleur troisième, je pense.
Sûr, il va y avoir un meilleur troisième parce
Mais
que
alors, dans on, le groupe, nous, a... avons, nous ouais. avons rencontré quelqu'un.
Ouais.
Qui,
un grand monsieur.
Un grand monsieur, lui, qui va nous dire ce qu'il pense de tout
ça. Il avait dit qu'il serait le gardien.
Son point de vue sur la Côte d'Ivoire, justement.
Allez. Tiens.
Qu'est-ce que tu penses de cette prochaine Coupe d'Afrique et que penses-tu de l'équipe de la Côte d'Ivoire?
Coupe d'Afrique, cette fois-ci, je m'implique personnellement parce que les autres années, ils nous ont fait pleurer. Moi, ce n'est pas leur faute aussi, hein, ils veulent bien la gagner comme tout le monde. Mm-hmm. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a des compartiments où il y a des problèmes, mais cette année, on a tout fait pour pouvoir gérer tous les compartiments de sorte à ce que cette Coupe revienne en Côte d'Ivoire. C'est vrai, je respecte les autres équipes, hein, mais cette année-là, c'est vrai que la Côte d'Ivoire ne part pas favori, mais on va surprendre. On va surprendre et retenez ça. La Coupe ira en Côte d'Ivoire. C'est vrai que ça va être dur, mais pour remporter la Coupe, il faut être capable de battre tout le monde. Donc, ne dites pas que ça, c'est la poule du bonheur, ça, c'est la poule de la mort. Les poules sont toutes des poules de la mort. Et la Côte d'Ivoire est dans une poule où elle va tuer tout le monde. Ça, c'est clair. Mais on ira remporter la Coupe. Ça, c'est clair. Ah ouais, ouais. Et le gardien de but, ce sera moi-même, personnellement. Ouais, ouais.
Effectivement, nous avions la visite de Michel Gou, qui lui est persuadé que c'est la Côte d'Ivoire
qui va remporter.
Oui, mais en plus, il a bien affirmé que si la Côte d'Ivoire ne gagne pas, il va engager les gens. Donc, moi, j'ai peur.
Écoutez, c'est un groupe très relevé, coach. Le Maroc et la Côte d'Ivoire, ils se retrouvent. Hein. Déjà, ils s'étaient rencontrés en 2017. Le Maroc avait battu pendant la CAN. Le Maroc avait éliminé aussi dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 la Côte d'Ivoire, toujours avec Hervé Renard qui les avait fait gagner. Donc pour la Côte d'Ivoire, il y a...
C'est un super groupe.
Ah ouais, c'est un super groupe. Et l'Afrique du Sud aussi, la Namibie qui découvre la compétition, on va les suivre. Et l'Afrique du Sud qui est un client, donc vraiment dans ce groupe D. Ça va être très 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 serré et j'ai hâte de voir notamment le match Maroc-Côte d'Ivoire.
Maroc-Côte d'Ivoire, et c'est le seul ça groupe va être l'affiche, Willy.
Et c'est le seul groupe qui comporte trois anciens vainqueurs de la compétition. Un groupe énorme. Et dans ce groupe aussi, comme très, disait très, très Christian, costaud. On va avoir un meilleur troisième dans ce groupe aussi.
Exactement.
Toutes les façons, donc cette équipe... De... Oui, Adama, Adama oui.
Ouais.
Oui, quand je l'ai mis, c'était par rapport à Gou, par rapport à son intervention.
Mais non, mais
qu'est-ce que t'en penses, Adama? Qu'est-ce que t'en penses?
Il va être gardien de but. Il est prêt à être le gardien de but.
Gardien de but, c'est vrai ce qu'il vient de dire, que la Côte d'Ivoire ne va pas venir en touriste.
Ah ouais?
Que Gou n'oublie pas que la Côte d'Ivoire déjà commence à compter des blessés du côté de ses professionnels, et notamment du côté de l'Angleterre.
Ouais.
Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si l'équipe de la Côte d'Ivoire arrive au complet, ben, elle fera une très bonne canne.
Ouais, mais parce
je souhaite, je touche du bois. Si l'équipe de la Côte d'Ivoire arrive affaiblie avec des blessés, je ne pense pas que ce serait la même chanson comme en train de le dire Gou à ce moment. Et aussi, je voulais ajouter, ce groupe est un groupe très relevé.
Ouais.
Je vois une équipe de Côte d'Ivoire qui reviendra avec une revanche sur le Maroc. Et donc, avec tout le respect que je porte aux deux autres nations...
Afrique du Sud, Namibie.
L'Afrique du Sud et Namibie. Je pense que les favoris de ce groupe-là, et ce serait bien sûr la Côte d'Ivoire et le Maroc.
Messieurs, le dernier groupe que nous allons voir aujourd'hui, c'est la Tunisie, le Mali, le groupe E, hein, Tunisie, oui. Mali, Mauritanie...
Le Sénégal, la Mauritanie, pardon, et l'Angola, c'est ça. Oui, donc Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola... Trois équipes qui ont fini première de leur groupe, la Tunisie, le Mali et l'Angola, et la Mauritanie qui a fait un parcours quasiment parfait. Donc vraiment aussi dans ce groupe-là, on a des clients encore, de belles équipes.
Ouais. Très très content pour la Mauritanie, première participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça va être un groupe effectivement, comme le dit Christian, à suivre. C'est assez, je trouve que c'est assez équilibré. On a aussi cette belle sélection de l'Angola, le Mali qui s'est qualifié prématurément. Et la Tunisie, dans ce groupe E, pareil, c'est un peu comme le groupe D, c'est un groupe très très lourd.
Adama pourra bien nous en parler, puisque deux des équipes de ce groupe ont éliminé le Burkina Faso. Donc,
Exactement, la Mauritanie et l'Angola, des équipes très difficilement jouables.
Ouais.
Mais dans ce groupe E, il faut reconnaître une chose, je ne sais pas quel est le secret des aigles du Mali. Les Maliens ont toujours... un mental de fer devant les équipes du Maghreb.
Surtout quand il s'agit d'Alain Giresse avec la Tunisie.
Voilà. Et le Mali arrive toujours à s'en sortir devant les équipes du Maghreb. Et donc, quand je vois la Tunisie et la Mauritanie, j'ai pas peur pour les Maliens. J'ai pas peur non plus pour ne pas voir la Tunisie sortie dans ce groupe. C'est un groupe très très difficile.
Ouais.
Je crois qu'il y aura un troisième meilleur dans ce groupe.
Il faudra se méfier de l'Angola.
C'est de l'Angola parce que coach, tu connais bien l'Angola.
Ah, bien sûr.
Et c'est une équipe très très organisée sur le plan structure, sur le plan continental. Donc il faut vraiment se méfier. Moi, je vois le Mali et l'Angola sortir de ce groupe plutôt que. Parce que l'Angola va faire une surprise, ce qui n'est pas une surprise pour moi.
Le premier du groupe I en qualification, 12 points devant la Mauritanie, pardon. 12 points. Ouais. C'est énorme.
Il n'y a que le Faso qui est passé au travers. Donc,
oui, bien sûr.
Ah ouais, bien sûr.
Messieurs, nous reste. Il nous reste 4 minutes. Alors, on a discuté aussi avec Gou du football, du ballon d'or. Et voilà ce qu'il nous disait.
Ouais, il nous a donné son point de vue.
Je vous le dis dès maintenant, le prochain ballon d'or, ce sera un Africain. Sinon, c'est clair. Sinon, oui. Non, le prochain ballon d'or, ce sera un Africain. On a cherché à prendre ça. Après, oui, il n'y a plus. Mais le prochain ballon d'or, ce sera ni Messi, ni Ronaldo, ni Mbappé, mais un Africain, vraiment Africain dans le sang, Africain dans l'engagement. Si ce n'est pas un Africain, il y a giflé oreille gauche là. Voilà.
Merci.
Voilà, c'était un petit coucou de, donc ouais, de Gowou qui était passé nous voir et nous parler un peu de football aussi.
Ouais.
Il reconnaît que quand même au niveau de ce tirage au sort, même s'il y a de petites équipes, mais ouais, quand même faut pas rêver. Il pense que ça se jouera pas avec des petites équipes qui vont ils viennent juste pour amuser la galerie. On a bien rigolé en tout cas.
C'est ce que vous allez voir. Mais coach, il faut dire quelque chose que moi j'ai remarqué. La CAN est à 24, mais même à 24, on voit que les groupes sont toujours difficiles.
Difficile, tout ça. C'est la
région la plus difficile. Ça rejoint le fait que l'Afrique reste le continent du football par excellence.
Mmh. Oui, coach, juste une dernière information. Il y avait un auditeur qui me demandait qu'on parle de nos internationaux qui évoluent à l'étranger. Donc j'ai parlé de Sadio Mané tout à l'heure. Je voulais juste mettre en avant Khalidou Koulibaly qui a mis un doublé ce week-end du côté du Napoli. Donc voilà, c'était pour notre auditeur qui me demandait des news. Bon, voilà, Koulibaly, un des meilleurs défenseurs du monde, sénégalais de surcroît, qui a mis un doublé avec le Napoli.
Bien sûr, faut pas.
Il faut souligner aussi très beau but de Pépé. Nicolas Pépé aussi en Ligue 1,
qui parle sur l'eau.
C'est important, ça, PSG qui s'est pris une grosse tare dans la tête. Christian, faut pas t'en aller.
Non, Christian ne voulait pas qu'on en parle, alors
il faut en parler. La grosse gifle reçue par Lille.
Alors, messieurs, on va terminer un peu sur cette Coupe d'Afrique des Nations en vous donnant quelques informations pour vous dire que chaque équipe chaque équipe qualifiée là recevra $600,000. C'est pour la préparation. $600,000, ça fait environ du
c'est beaucoup.
Le dollar est à 550.
Ouais, mais c'est pas la peine de convertir, c'est ça. Beaucoup de sous.
C'est beaucoup de sous, quoi, chaque équipe. Ouais, c'est environ 30 à 40 millions, je pense, quelque chose comme ça. Alors que le vainqueur, celui qui va soulever la Coupe d'Afrique des Nations, aura $4,5 millions.
Il y a de l'oseille
dans cette compétition.
Il y a de l'oseille, bien sûr qu'il y a de l'oseille. C'est clair qu'il y a de l'oseille, mais bien sûr. Hein. Alors, rappelons quand même que le Chan ne sera plus, en remplacement du Soudan, ne sera plus
Oui, c'est ça, en Éthiopie, oui, c'est ça. Du coup, ce sera
en Éthiopie.
Ce sera du côté du Cameroun en 2020, en préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui sera du côté du Cameroun.
Et si les stades sont prêts, non ?
Voilà, ce sera un test grandeur nature.
C'est un test grandeur nature. Hein,
c'est ça.
Et autre information, rapidement, messieurs, avant qu'on laisse la place à Fatou. Fatou, tu vas où aujourd'hui ? Je ne sais même pas où est-ce qu'elle va, elle, Fatou. C'est Maman qui revient.
Maman,
il nous fait plaisir, Maman. Alors, autre information.
Oui.
Allons-y. Je vous écoute.
Christian.
Et si vous n'avez rien à dire, on va se dire au revoir.
Si, on en reparlera la semaine prochaine.
Il y a la canne des moins de 17 ans.
Oui, juste la canne des U17 qui a commencé. Bon, il y a quelques soucis déjà. Il y a quelques joueurs qui ont été disqualifiés, qui n'ont pas passé le test, bien évidemment. Mais on en reparlera dans le détail. Mais ça se joue en ce moment. On va vous donner toutes les informations sur la page Facebook et sur le compte Twitter de l'émission Tout Feu Tout Foot.
Alors, merci à tous. Merci Christian Chango.
Merci. Et place à Fatou.
Merci coach Lamine.
Merci Adama.
Merci à tous les auditeurs. Merci Adama Sourabier.
Malheureusement, on n'a pas pu prendre tout le monde. Abdouchou, tous les. Il y avait
On les salue, coach Lamine.
Bien sûr. Alors, dans quelques instants, Fatou, tu vas où ? Fatou reçoit Maman. Maman qui est du Niger, mais Niger ne participe jamais à la Coupe de l'UFOA, c'est leur
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.